Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire, qui avait fait une thèse sur les bistrots, une thèse médicale sur les bistrots, bravo. D'après ce que j'ai pu comprendre, en fait, c'était parce que dans les bistrots, on y boit beaucoup et que médicalement, il peut y avoir des problèmes. Alors, aujourd'hui, c'est la contre-expérience qui prouve que dans les bistrots, il n'y a pas trop de problèmes. Au contraire, bien au contraire. Alors, je voudrais remercier Jean Bochco, bien sûr, qui m'a appris la chose suivante, c'est que dans le théâtre, enfin, il m'a appris, il m'a confirmé qu'il y avait à la fois le temps, le lieu et le jeu. Alors, ben, le lieu, c'est le bistrot. Ça pose tout de même une situation un peu incongrue pour le médecin que je suis. Mais enfin, bon, j'y suis avec vous ce soir. Deuxième point, c'est le temps. Et le temps, effectivement, il y a un temps de réflexion médicale qui aujourd'hui émerge, et donc c'est bien choisi au niveau du temps. Puis en plus, comme il a dit que c'était moi qui inaugurais les 16 séances, alors je me sens vraiment là des ailes poussées. Le jeu, ben, le jeu, il va falloir ouvrir le débat, parce que si on reste avec une espèce d'exposé académique, ça ne va pas aller très loin. Donc je vais parler un certain temps, mais après, j'espère que toute la salle va être réactive et que nous allons jouer à la controverse. Et pour cette controverse-là, j'espère que vous allez m'accuser, c'est-à-dire dire que je dis des bêtises. Et d'ailleurs, si vous voulez, on m'a invité parce qu'on me considérait comme un menteur, d'après ce que j'ai compris. Donc, si vous voulez, il est évident qu'il va falloir que vous ayez la répartie en me disant « on n'est pas d'accord avec vous, tout ce que vous avez dit, c'est pas vrai ». Donc, j'attends d'être accusé. Et puis, je voudrais remercier aussi M. Didier de Souza, parce que lui, il a... D'abord, c'est lui qui nous a accueillis ici, et puis il a compris comment il fallait faire pour faire des affaires dans la vie. D'ailleurs, c'est ce que dit la chanson. Parce que, si j'ai bien compris, le bistrot, c'est un lieu de perdition parce qu'on picole, donc ça crée des maladies, mais il a compris ce qu'il fallait faire. Il a monté un système d'ambulance pour justement aller porter les malades ailleurs. Et puis... Il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il s'occupe aussi des croque-morts, puisqu'il s'occupe des enterrements. Alors vous voyez qu'il a tout compris, de la naissance à la mort, c'est la vie. C'est peut-être ça qu'on appelle croquer la vie, comme dit la chanson. Bon, j'en sais rien, on va voir en tout cas. Mais moi, en ce qui me concerne en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, plus tard viendra l'échéance finale, meilleur on sera, on se partera. Alors si vous voulez, je voudrais remercier les musiciens aussi. J'ai appris beaucoup sur la vielle à roue en quelques temps. J'ai cru d'abord que c'était une cornemuse. Bon, alors, on m'a dit qu'il passe une demi-heure à s'accorder et une demi-heure à jouer faux. Bon, alors, si vous voulez, je n'en sais rien, mais enfin, ça m'a paru tout de même trop faux. Alors, il faut le remercier, sans compter les autres musiciens qui sont là aussi. Alors, si vous voulez, je vais essayer d'être le moins ennuyeux possible, mais être le plus didactique et celui qui est le plus efficace au niveau de la diffusion des connaissances actuelles en matière de santé. Alors, ce n'est pas très rigolo ce que j'ai à vous dire ce soir. Je vais essayer tout de même de vous le dire de la façon la moins triste possible. Je ne sais pas si je vais y arriver. En tout cas, vous me le direz. Alors, d'abord, la santé, écoutez, ça nous concerne tous. Et puis, quand on fait des sondages, c'est une priorité qui vient... c'est une préoccupation qui est prioritaire, qui vient en premier lieu dans tous les sondages, la santé. Alors, tout de suite, un point important, santé pour nous-mêmes, oui, dans notre société qui est relativement égoïste, mais santé pour nos enfants, pour les générations futures, c'est aussi un point très important. Et nous sommes dans une société qui, quelquefois, manque de générosité. On pense plus souvent à soi, on est content d'avoir des centenaires, puis on oublie le fait que nos enfants, ils sont là et on voudrait qu'ils aient un futur au moins comparable au nôtre, notamment au plan de la santé. Et malheureusement, nous sommes dans un monde qui brade la santé et qui fait qu'il y a des considérations économiques qui sont prioritaires avant tout et qu'on oublie la politique de santé n'est pas à la hauteur de ce qui se passe actuellement. Et qui paiera les frais? Qui paiera la facture? Ben, nous, déjà, nous payons, un certain nombre d'entre nous payons la facture parce que nous avons une maladie. Mais la tristesse de tout ça, c'est que nos enfants risquent de payer plus que nous encore. Alors, je vous rappelle la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui est qu'une bonne santé, ce n'est pas uniquement ne pas avoir de maladie, c'est aussi se sentir bien dans sa peau, c'est-à-dire tant au niveau physique que psychologique. Et si vous voulez, il est clair que bien sentir dans sa peau, ça impose aussi des conditions sociales préservées, minimales, si j'ose dire. Parce que quand vous êtes en train de vous demander ce que vous allez manger le soir, sans savoir ce que vous allez manger le soir, que vous avez faim tout le temps, comme d'ailleurs c'est le cas plus souvent dans les pays du Sud que dans nos pays ici, puisque vous savez, dans nos pays d'ici, tout même en général, on ne meurt pas de faim, et que notre maladie, c'est plutôt d'être trop gros, obèse, le surpoids, l'obésité. Ici, c'est les maladies des pays du Nord. Dans les pays du Sud, je sais bien que ça peut nous paraître très loin de ce merveilleux pays, mais il y a tout de même, sur la planète Terre, un sixième de l'humanité qui ne vit pas, qui ne meurt pas, en tout cas, qui ne mange pas à sa faim. 800 millions et plus. Et que ce qui est prévisible dans les années à venir, dans les toutes prochaines années, dans les 10 ans qui viennent, 20 ans, 25 ans, tout au moins lors de ce siècle, c'est que probablement ceci va s'aggraver, car vous savez que nous sommes à la veille d'une crise économique majeure, alimentaire, sanitaire, financière. Tout ceci risque de nous arriver, je vous en dirai un mot à la fin. Alors, il y a un point nouveau qui est essentiel et qui justifie mon combat de médecin. Pourquoi je suis là ce soir parmi vous, c'est qu'il y a un changement de paradigme. Alors un paradigme, c'est un cadre de pensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de chercheurs, de scientifiques, de médecins se disent les maladies d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Rappelons-nous ce qui se passait avant-hier plutôt, au 19e siècle. Vous savez que les grandes maladies, c'était la tuberculose, puis la syphilis. Des maladies infectieuses, qu'on mourait de tuberculose et puis éventuellement de syphilis. Et que grâce au progrès de la médecine, on a jugulé la tuberculose de façon claire, on a découvert les sulfamides antituberculeux juste avant la dernière guerre, et puis moi quand j'étais externe jeune médecin après la dernière guerre, eh bien j'ai vu encore des salles de tuberculeux, et là on avait des antibiotiques actifs qui ont été découverts. Et donc là, il y a une transformation radicale, si vous voulez, de la maladie, puisqu'on guérissait les malades. Je vous rappelle que au 19e siècle, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu des progrès foudroyants, d'abord par Robert Koch, qui, vers les années 1853, a découvert le bacille de Koch, ce qui a permis les progrès, la découverte des sulfamides et des antibiotiques, la mise au point du BCG, et donc, si vous voulez, on est arrivé à supprimer les sanatoriums. Il faut savoir que encore au début du XXe siècle, eh bien, notre pays était couvert de sanatoriums où les tuberculeux étaient là. On n'avait pas encore trouvé tout à l'heure, il n'y avait pas encore les antibiotiques ni les sulfamides qui étaient arrivés. Et la médecine pensait que c'était au rendez-vous compte. Un an avant pensait encore à l'époque, si vous voulez, que cette maladie tuberculeuse était une maladie héréditaire. Vous vous rendez compte ? Que ça survenait chez des gens qui étaient psychologiquement diminués, qui avaient un profil psychologique, qui avaient des conditions insalubres, ça reste toujours, et que, en définitive, le seul moyen qu'on avait pour traiter cette maladie, c'était de les mettre au grand air, donc les sanatoriums. Du jour au lendemain, lorsque sont apparus ces antibiotiques, ces antituberculeux, eh bien, les sanatoriums ont disparu, on les a reclassés, on les a réutilisés de façon différente. La même chose pour la syphilis, si vous voulez, qui était une maladie qui a complètement disparu, qui nous a été importée, qui a été, si vous voulez, qui est survenue comme ceci au moment du 15e, 16e siècle, qui d'ailleurs a fait que nous avons contaminé les peuples d'Amérique du Sud et qui a été jugulée grâce à la découverte du tréponème. Et qui a fait et avec des antibiotiques très très actifs. Donc vous voyez que 19e, début du 20e siècle, jusqu'à la dernière guerre, il y avait des maladies, on les a jugulées. Bravo la médecine. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que nos maladies sont complètement différentes. Le cancer, c'est une maladie qui a émergé depuis la dernière guerre, progressivement. Moi, quand j'étais externe à l'hôpital Cochin à Paris, vers les années 60 environ, il y avait des salles de tuberculeux encore à l'époque, mais il y avait, qui étaient finissants, si vous voulez, ces salles mais il y avait également quelques cas de cancer, mais pas beaucoup. Il y avait des cancers essentiellement liés au tabagisme. justement, dans les bistrots, c'est là où on fumait. On fume. Là, on ne fume plus. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu cette loi pour interdire de fumer dans les bistrots, je ne sais pas si je serais venu ce soir. Parce que, si vous voulez, il est clair que le tabagisme passif est quelque chose qui peut induire des cancers chez les gens qui ne fument pas. Alors là, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas normal. Alors, bref, vers les années 60, il n'y avait pratiquement pas de cancer. Aujourd'hui, les jeunes médecins voient des cancers partout. Non seulement nous avons... Il y a eu, au décours de la dernière guerre, grâce, il faut le dire, à une préscience du général de Gaulle, qui est tout de même, que l'on peut tout de même, quelles que soient nos opinions politiques, que l'on peut reconnaître tout de même, il y a eu création des centres anticancéreux, de 20 centres anticancéreux en France, par une ordonnance. Donc ceci était prémonitoire, si j'ose dire. Et puis maintenant, on en est à tous les hôpitaux, ont des services, enfin, tous les hôpitaux de CHU, les hôpitaux régionaux, etc., ont des services de cancérologie. Et maintenant, il y a tellement de cancers qui arrivent que même ces hôpitaux ne peuvent pas accueillir tous les malades. Heureusement qu'il y a des cliniques privées qui sont là, qui accueillent. Voilà. Donc on est devant une espèce d'épidémie, de flambée de cancers. Alors, trois points pour vous fixer ce qui se passe aujourd'hui. Depuis ces 25 dernières années, le nombre de cancers du sein chez la femme a doublé. Autrement dit, il y avait une femme sur 12 qui avait la malchance de faire un cancer du sein il y a de ça 20 à 25 ans. Aujourd'hui, c'est une femme sur 6. Les hommes ne sont pas mieux parce que, si vous voulez, là, la nature rétablit les parités, la parité, puisque, en ce qui concerne le cancer de la prostate, le nombre de cancers de la prostate a triplé depuis ces 20-25 dernières années. Autrement dit, aujourd'hui, c'est un homme sur 5 qui aura la malchance de faire un cancer de la prostate dans sa vie. Alors, toutes ces données-là sont, si vous voulez, occultées par les pouvoirs publics qui ne veulent pas voir ce qui se passe. Si je rajoute un troisième point, qui est le fait qu'il y a, et ce sont les données de l'OMS, pour ce qui est de l'Europe, vous avez 1% en plus de cancer chaque année chez l'enfant depuis ses 25 à 30 dernières années. Alors, les cancers de l'enfant sont rares, heureusement, mais il y en a 1% en plus chaque année depuis 25 ans. Même chose aux États-Unis. C'est ce qui m'a fait dire à l'époque qu'un enfant, ça ne fume pas. Alors, si les parents fument, il y a un peu de tabagisme passif. Enfin, en général, ça ne fume pas, ça ne boit pas d'alcool, ça n'a pas de déséquilibre alimentaire encore apparu lorsque un enfant fait une leucémie à 3 ans. Ça n'a pas eu le temps d'expliquer la passion du cancer, et donc à ce moment-là, eh bien, il est évident que j'ai changé de vision d'esprit, de paradigme, en me disant qu'il y a certainement une cause environnementale qui n'est pas en tout cas liée au mode de vie classique, aux causes classiques à l'origine des cancers, qu'il y a donc des causes environnementales. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai cherché à mettre en évidence ces causes environnementales. Alors, pour faire simple et court, qu'est-ce qu'il faut se dire? Eh bien, il faut se dire qu'il y a un cas sur quatre de cancer qui est lié au tabagisme. 25%. Et donc, ça donne surtout des cancers des voies respiratoires, cancers du poumon, cancers aussi otorhino-laryngologiques, en plus ils sont associés à l'alcool, l'alcoolisme, cancer de la vessie, etc. Ça intervient également dans les cancers du col de l'utérus chez la femme. Tous ces types de cancers, ça représente 1 sur 4, si vous voulez, et ça c'est le tabagisme. Et donc, je rejoins tout à fait les lois Veil et Evin qui ont tenté de limiter le tabagisme dans les lieux publics. Mais vous voyez qu'il a fallu attendre ces derniers mois pour le début de cette année pour que cette loi soit absolument respectée, y compris dans les bistrots. Et donc, si vous voulez, je pense que c'est un plus. Il est clair que depuis les lois Evin et Veil, nous avons une régression du tabagisme. Et la régression de l'alcoolisme aussi, qui s'est faite simultanément, et que, si vous voulez, on voit les cancers du poumon, dont on sait qu'ils sont liés au tabagisme, commencer à régresser, et les cancers qui sont essentiellement liés à l'alcoolisme, également, eux, régresser de façon très nette. Cancer ORL, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cancer de l'œsophage, qui sont en voie de régression. Donc vous voyez que quand on a une prévention primaire, comme on le dit, c'est-à-dire qu'on va retirer le facteur de risque qui cause le cancer, ça régresse. Et donc, on a tout à fait intérêt à poursuivre une politique de prévention en matière de tabagisme, de lutte contre le tabagisme et de lutte contre l'alcoolisme. Nous sommes aujourd'hui très bien partis dans ce domaine-là. ces facteurs de risque sont reconnus par les pouvoirs publics et donc j'adhère complètement à ce qui est fait. Le vrai problème, c'est que s'il y a un cancer sur quatre qui est lié au tabagisme, à quoi sont liés les autres cancers? Et à quoi est liée cette augmentation d'incidence? Puisque nous avons plus de cancers du sein, plus de cancers de la prostate, plus de cancers chez l'enfant, plus de cancers de mélanome, plutôt cancer cutané, vous savez, les tumeurs noires de la peau, là, les grains de beauté qui étaient génères, plus de cancers du cerveau, plus de cancers de la vessie, plus de tas d'autres cancers qui émergent, plus de cancers du rein, etc. À quoi c'est lié tout ça? Alors, il y a deux thèses qui s'affrontent. La thèse classique est de dire, c'est parce que, qui renvoie la balle dans le camp des citoyens que nous sommes, en disant c'est de votre faute, vous mangez mal, vous prenez la pilule, vous prenez des traitements subjectifs de la ménopause, vous vous exposez trop souvent au soleil, vous êtes stressé, il n'y a qu'à être déstressé, vous n'aurez pas de maladie, etc., etc. Tout ceci, si vous voulez, ça renvoie dans le camp du citoyen. Alors, ce n'est pas le tabac et l'alcoolisme, puisque ça régresse. Et que les cancers liés au tabagisme et à l'alcoolisme régressent. Donc, il y a forcément autre chose. Alors, quand on prend un à un tous les facteurs que je viens d'énumérer, la mauvaise alimentation, la pilule, etc., tous ces facteurs-là, si vous voulez, sont des facteurs qui peuvent favoriser le cancer, mais qui ne les déclenchent pas. Pour faire un cancer, c'est un petit peu compliqué ce qu'il y a là, mais après tout, vous êtes venu pour apprendre des choses. Alors, je vais tout de même faire un petit rappel de biologie en essayant d'être le plus didactique possible. Pour faire un cancer, il vous faut dans une même cellule, souche, comme l'on dit, c'est-à-dire une cellule qui, dans l'organisme, normalement, se divise. Il vous faut des mutations, 3 à 6 mutations. Alors là, halt, qu'est-ce que c'est qu'une mutation? Alors, il faut savoir que dans chacune de nos cellules, nous avons 20, dans chacune de nos cellules, dans le noyau de nos cellules, nous avons les chromosomes. Et dans chacun de nos chromosomes, nous avons 25 000 petits microprocesseurs qu'on appelle des gènes, 25 000 gènes. Petits microprocesseurs, ça, tout le monde sait ce que c'est qu'un petit ordinateur, un petit microprocesseur. Et il faut savoir que le travail de ces petits ordinateurs, ces 25 000 petits ordinateurs, c'est de contrôler la naissance, la vie et la mort de chacune de nos cellules. Et quand il y a un petit microprocesseur, un gène, qui est altéré, structurellement altéré, c'est-à-dire que dont la structure chimique est modifiée, eh bien, c'est cela qu'on appelle une mutation. Donc, il nous faut 3 à 6 altérations sur 25 microprocesseurs que nous avons tout le long, dans nos chromosomes, tout le long d'un acide de vie qu'on appelle l'acide désoxyribonucléique. Il faut ça, dans une même cellule. Alors, il est évident, pour avoir une mutation, ça va assez vite, car les premières mutations peuvent être dans le ventre de la mère, au niveau du fœtus. Mais la deuxième mutation, elle va arriver ailleurs, la troisième, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas évident d'avoir 6 mutations, 3 à 6 mutations dans une même cellule. Donc, ça demande du temps. C'est pour cela qu'un cancer va prendre beaucoup de temps avant de devenir clinique décelé par le médecin. Ça va prendre, quelquefois, au minimum un an ou deux, et quelquefois 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est ce qu'on vient de découvrir exactement. Cette période cachée, préclinique, qu'on ne voit pas du tout, qui se fait à notre insu, à l'insu le plus souvent du corps médical, ça peut durer jusqu'à 30, 40, 50 ans. Et vous voyez donc que c'est pas facile à déceler, car ces mutations sont encore indécelables par les tests que nous avons actuellement. Alors, quand on prend tous les facteurs classiques, l'alimentation, etc., même la pilule, etc., eh bien, il n'y en a aucun qui est mutagène, aucun qui est capable de créer des mutations. Certains stimulent les cellules déjà mutées, c'est ce qu'on appelle des promoteurs, ont un peu un rôle de starter quand on utilise une voiture pour mettre ça chauffe un peu le moteur, si vous voulez. Donc, les cellules se divisent, mais ça ne crée pas les mutations. Quant à l'alimentation, on ne sait même pas ce que ça peut faire. L'idée qui tire partout est de dire que il y a des antioxydants dans les fruits et légumes et que ça nous protège du cancer. Cette idée est actuellement remise en cause. Il est évident qu'il vaut mieux manger des fruits et légumes, comme je vais vous le dire tout à l'heure, mais que ce n'est pas ça qui va vous empêcher de faire un cancer, malheureusement. Car les véritables causes, les véritables agents du cancer, ce sont les facteurs, où se trouvent les facteurs mutagènes, c'est dans l'environnement qui se trouve. Et là, si vous voulez, depuis ces 50 dernières années, nous avons pollué considérablement notre environnement. Nous avons pollué par des rayonnements, alors je vais passer très rapidement, radioactivité. Il est évident que la radioactivité naturelle est venue s'ajouter la radioactivité artificielle, celle notamment des explosions nucléaires, comme il est évident que le nuage de Tchernobyl, contrairement à ce qu'on nous a dit, ne s'est pas arrêté à nos frontières et qu'il a fait en fait 2,5 fois le tour de la Terre. Deuxièmement, vous avez les ultraviolets solaires. Vous savez que normalement les ultraviolets solaires sont arrêtés par la couche d'ozone stratosphérique. Et vous savez qu'il y a ce fameux trou dans la couche d'ozone stratosphérique. Alors c'est loin de nos préoccupations quotidiennes, cela. Mais si les ultraviolets solaires ne sont plus arrêtés ou trop faiblement arrêtés par la couche d'ozone, nous avons donc une quantité d'ultraviolets augmentée à la peau, et on sait que ça cause des cancers, notamment les cancers de la peau. Et donc, contrairement à ce qui est dit aujourd'hui, malheureusement, malgré le protocole de Montréal qui a une dizaine d'années, cette couche d'ozone stratosphérique ne s'arrête pas, le trou ne se répare pas, contrairement à ce qu'on pensait au début, il persiste. Peut-être même il s'aggrave dans certains cas. En tout cas, il persiste. Troisième type de rayonnement, les portables. Vous savez que nous sommes montés au créneau, de façon générale, ce qu'on appelle les champs électromagnétiques pulsés. Alors, il y a trois types. Il y a les lignes à haute tension. On sait maintenant que si vous habitez à moins de 200 mètres d'une ligne à haute tension, le risque de leucémie chez l'enfant est multiplié par 3. Que si vous voulez, quand vous regardez trop souvent un ordinateur, on ne sait pas encore ce qui se passe, mais il y a un champ électromagnétique pulsé qui est là, et les nouveaux écrans plats, c'est mieux qu'avant, parce que ça diminue le champ électromagnétique, mais en tout cas les ordinateurs d'avant donnaient des champs importants, et que c'est surtout le caractère pulsé, c'est-à-dire reproductif en lui-même, qui est nocif pour les cellules normales et qui peuvent éventuellement les cancériser. Et puis pour les portables, vous savez qu'on est monté au créneau récemment, car il est maintenant absolument démontré que si vous utilisez, c'est pas ce qu'on fait habituellement, le portable une heure au moins par jour pendant 10 ans, le risque de cancer du cerveau est augmenté par 3 ou 4. Donc ça, c'est clairement démontré. Il y a eu une réunion de consensus international qui s'est réunie, faisant état de 1500 études réalisées dans la littérature qui le disent. D'où tout de suite deux précautions, car le fœtus est le plus vulnérable. Pas d'utilisation du portable chez les femmes enceintes. J'y reviendrai en permanence, comme protection de la femme enceinte. Et pas d'utilisation du portable chez les enfants de moins de 12 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est d'ailleurs la réglementation anglaise qui le dit, car l'enfant, surtout le petit enfant, le fœtus encore plus, sont très vulnérables aux champs électromagnétiques. Ça peut désorganiser les cellules et être, si vous voulez, la première étape d'un cancer qui apparaîtra des années plus tard. En vertu du principe de précaution, il faut certainement faire cela. Et puis vous avez les virus. Alors, les virus, on connaît depuis très longtemps que certaines maladies, les leucémies, les lymphomes, qui sont les tumeurs des ganglions, certains cancers du sein, certaines tumeurs du tissu conjonctif, qu'on appelle les sarcomes, peuvent être d'origine virale. Et donc, si vous voulez, ceci est clairement démontré. Le seul point, c'est qu'il y a une recrudescence aujourd'hui des leucémies et des tumeurs des ganglions qu'on appelle des lymphomes, et je vais vous dire pourquoi dans un instant. Donc maintenant, si on additionne le tabagisme, qui est indiscutablement un facteur à considérer, parce que dans les fumées et les goudrons de tabac, vous avez justement des facteurs mutagènes. Donc, il y a des facteurs mutagènes. C'est le tabagisme étant le facteur de risque lui-même, mais les agents cancérigènes sont dans, les substances cancérigènes sont dans les goudrons, et les fumées. Donc vous voyez que le tabagisme, ça passe. 25% de tabac, 10% les rayonnements à peu près tout confondu, 15% les virus. Si vous additionnez tout ça, vous avez 50%. Reste les substances chimiques. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à la louche, environ un cancer sur deux est lié à la pollution chimique. Et cette pollution chimique a plusieurs rôles. Elle peut ne pas être cancérigène directement, mais les substances peuvent être immunosuppressives, ça veut dire qu'on va diminuer les défenses immunitaires de l'organisme, ce qui va augmenter la virulence des virus, et donc on est revenu à ce que je vous disais tout à l'heure, les virus qui peuvent être cancérigènes, notamment chez l'enfant, et donner donc des leucémies, des lymphomes, etc. Et puis ça peut être cancérigène directement. Et comment nous contaminons par ces substances chimiques? Il y a la voie alimentaire qui est prioritaire, avec des contaminants qui sont dedans, les nitrates, les pesticides qui proviennent de l'agriculture intensive, les dioxines qui sont crachées par les incinérateurs. Et il faut savoir que, si vous voulez, ces contaminants, même à faible dose, peuvent créer une maladie telle qu'un cancer. Car il y a une règle majeure pour tous ces facteurs dont je vous parle, c'est que ce n'est pas la dose qui fait le poison, ce n'est pas l'intensité des doses qui fait le poison, c'est la répétition des doses qui fait le poison, autrement dit, la durée d'exposition à ces différents facteurs. Autrement dit, si vous avez dans votre alimentation toute petite dose de contaminants, indécelable par les moyens les plus sophistiqués, les appareils les plus sophistiqués actuellement, mais petite dose, comme on mange tous les jours, eh bien, il est évident qu'au bout d'un certain temps, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous aurez les fameuses mutations dont j'ai parlé tout à l'heure, qui finiront par arriver au bout d'un certain temps, et vous ferez un cancer lors de cette période. Et puis, la femme va se découvrir un cancer du sein à 40, 50 ans, sans savoir d'où ça vient, parce qu'on aura occulté toute cette période, puisque là à ce moment-là, si vous voulez, on aura oublié tout ce qui s'est passé, de façon à l'insu de la malade et du corps médical. Et puis les hommes font un cancer de la prostate à 55, 60 ans, sans savoir également d'où il vient. Mais il y aura bien eu, si vous voulez, comme on tente à le démontrer actuellement, si j'ai le temps, je vous en parlerai, un lien de cause à effet entre cette pollution, cette exposition prolongée à ces polluants, notamment chimiques ici, et l'apparition de la maladie. Même chose d'ailleurs pour les rayonnements. Les rayonnements, c'est pas... Quand il y a des doses élevées de rayonnement, ça crée des épisodes aigus, si vous voulez. Là, Tchernobyl, quand on analyse les liquidateurs de Tchernobyl, ben, il y en a 3 000 qui sont morts. Hein, sur 3 000 qui sont morts tout de suite dans les semaines qui ont suivi la tentative d'extinction du feu et de la radioactivité qui existait dans la centrale. Bon, ça, c'est les manifestations aiguës. Mais les manifestations chroniques, ça peut durer, mais même au-delà, si vous voulez, au niveau des générations, car que ce soit une contamination physique ou chimique, il peut y avoir une information au niveau des gamètes, c'est-à-dire des ovules chez la femme ou des spermatozoïdes chez l'homme, et ça peut se transmettre, si vous voulez, le risque de cancer ou d'autres maladies peut se transmettre dans les générations à venir. Vous voyez que c'est excessivement difficile à déceler toutefois, tout ça. Alors, voie alimentaire, les contaminants, mais aussi les additifs alimentaires. Alors, les contaminants, c'est l'agriculture intensive. Là, les additifs, c'est l'agroalimentaire qui nous dit, oh non, on met des petites choses, c'est des petites doses, c'est rien du tout, mais on est revenu sur le problème du poison qui est la répétition des doses et non pas la quantité de la dose elle-même. Et donc, si vous avez des conservateurs nitrités qui sont hautement mutagènes, non cancérigènes, vous avez des colorants azoïques, etc., etc., encore tolérés sur les listes officielles et qui font que, si vous voulez, probablement qu'il y a une participation des colorants et des conservateurs à base de nitrite pour ce qui est de la pollution alimentaire et du risque de cancer lié à cette voie. Voie alimentaire, voie respiratoire, même chose. Là, c'est la pollution respiratoire. Alors là, vous êtes plutôt mieux placé ici qu'en ville, que dans les grandes cités, bien que en zone rurale, dans l'air, vous avez... en ville, vous avez surtout le trafic urbain avec des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont des produits de dégradation de la combustion identiques à celles qu'on trouve dans la fumée des goudrons de tabac, dont on sait qu'ils sont mutagènes, cancérigènes. Et vous avez aussi, si vous voulez, les poussières qui véhiculent, si vous voulez, ces hydrocarbures aromatiques polycycliques, ainsi que des tas d'autres substances. Ça, c'est la pollution de l'air extérieur. Il faut y ajouter, en zone rurale, les pesticides. Quand un agriculteur balance des pesticides dans son champ, il y a uniquement 1/10 de la quantité de pesticides qu'il balance qui va dans notre sol. 9/10 va dans l'air. Et ces pesticides se fixant sur les poussières, tout le monde respire plus ou moins à proximité et à distance. Bon. Dans les zones industrielles, même chose, vous avez à la sortie des cheminées d'usines des tas de substances cancérigènes, même chose à la sortie des incinérateurs, c'est la raison pour laquelle le corps médical, lors des négociations du Grenelle, a voulu absolument qu'il y ait un moratoire pour la construction des incinérateurs qui, bien que on dise qu'ils soient aux normes pour les dioxines, ne sont pas aux normes pour les milliers de substances qu'on ne connaît pas bien, mais qui sont analogues à celles qu'on trouve dans la fumée des cigarettes, qui sortent, si vous voulez, de ces incinérateurs et qui vont contaminer les gens qui habitent autour de l'incinérateur. tout en sachant que cette pollution respiratoire se fait également, de l'air extérieur, se fait également à distance. Et il y a une pollution transfrontière. Autrement dit, les saloperies qui sont émises dans un coin ici, ça peut voyager très loin, ça fait comme pour Tchernobyl, ça peut voyager, faire le tour de la Terre. On a retrouvé, si on retrouve au pôle Nord, par exemple, les pesticides que nous balançons dans nos pays ici, à tel point que les Inuits aujourd'hui ont des maladies, notamment liées à une immunodépression, que l'on a rattacher à l'utilisation des pesticides en Europe et ailleurs. Et les enfants inuits ont des maladies infectieuses très, très rapidement, car ils n'ont aucune immunité pour se défendre contre ces microbes-là et meurent d'infections banales malgré les antibiotiques actuellement. Et ce n'est pas toujours facile d'ailleurs d'acheminer les antibiotiques là-bas. Donc les Inuits sont en danger et probablement, vous savez qu'il y a à peu près 50 millinites, je crois que je ne fais pas de bêtises en disant ça, et que le vrai problème est de savoir si ils vont persister à l'avenir. Ils sont en danger. Bon, mais ils ne sont pas les seuls sur la planète, rassurez-vous. Donc, pollution alimentaire, pollution respiratoire et extérieure, mais aussi air intérieur. Parce que l'air intérieur concentre ces polluants à partir de l'extérieur, mais aussi nous utilisons nous-mêmes des polluants. Ce qu'on appelle les biocides qu'on pulvérise pour les plantes, pour les insectes, pour les fourmis, les puces, etc. Tous les produits d'intérieur que nous utilisons qui, à notre insu, se vaporisent. Et surtout, si vous voulez, ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, dont le formaldéhyde, qui est le formol que vous connaissez, les vapeurs de formol qui se dégagent, qu'on en met dans l'école et qui se dégagent quand il fait chaud à partir des panneaux agglomérés, des moquettes qu'on a collées, des meubles qu'on achète, et qui sont, le formaldéhyde est un cancérigène certain aujourd'hui. Une enquête qui a été faite en Alsace qui a montré, tenez-vous bien, que 60% des écoles, des crèches, des écoles maternelles, des crèches, des maternités, du secondaire, des écoles secondaires, étaient contaminées à l'intérieur par des taux de formaldéhyde qui dépassaient de 100 fois la norme autorisée par l'OMS. Cancérigène certain. Alors, quand les cancers de l'enfant augmentent de 1% chaque année, on incrimine énormément la pollution de l'air intérieur, d'autant que l'enfant est le plus vulnérable que nous, c'est quand les poussières qui véhiculent ces saloperies sont en suspension dans l'air, elles s'accumulent près du sol. L'enfant respire donc plus près du sol que nous, il respire en plus haut. C'est lui qui en prend la figure, et d'autant plus que, rapporté au poids du corps, il respire une plus grande quantité d'air que nous. Et il boit d'ailleurs une plus grande quantité d'eau que nous. Donc quand l'air ou l'eau sont pollués, il a une plus grande quantité de polluants qui pénètrent dans son corps. Dernière voie importante, la voie cutanée. Vous savez qu'actuellement, nous sommes montés au créneau, et je suis monté personnellement au créneau, contre les cosmétiques. Et dans les maternités, vous allez me dire qu'il ne peut plus y avoir de maternité chez vous proche, on va y revenir à la fin, mais qu'au moins, si vous voulez, vous savez qu'autrefois, on accouchait chez soi, il y avait l'ancêtre de la sage-femme qui était la doyenne du village qui accouchait les femmes. Bon, ça se passait en général pas trop mal parce qu'il y avait l'expérience, l'empirisme acquis, etc. Bon, alors il n'y avait pas toutes les procédés actuels. Il y avait des femmes qui mouraient lors de l'accouchement, ça c'est clair et net, au XVIIe siècle. Bon, donc faut pas non plus dire que le progrès médical a été inutile, pas du tout. Il y a beaucoup, la mortalité en cas de grossesse est pratiquement infime dans nos pays, alors qu'elle persiste encore à des taux très élevés dans certains pays, disons, sous-développés, au moins de développement comme vous voulez. Par ailleurs, la mortalité infantile périnatale a complètement diminué. Et nous situons dans une bonne moyenne européenne avec peu d'enfants qui meurent des suites de l'accouchement. Bon. Ceci étant dit, le vrai problème qui se pose aujourd'hui, donc les maternités ont un rôle majeur à jouer. Ceci étant dit, vous savez que pour cette voie cutanée aujourd'hui, que les lobbies de l'industrie proposent maintenant aux femmes qui viennent d'accoucher comme cadeau pour le petit garçon qui est né, c'est une boîte bleue dans laquelle il va y avoir un conditionnement des cosmétiques à mettre avec des lingettes, etc., bourrées de produits chimiques pour que la femme puisse déjà être conditionnée à se servir de cela pour prendre en charge son petit enfant. Et pour les petites filles, ce sont bien sûr des boîtes roses. Alors il y a un marketing majeur. Or, si vous voulez, dans ces cosmétiques, Les industries des cosmétiques utilisent 9000 substances chimiques, dont pratiquement aucune, à l'exception de quelques-unes, ont été testées pour leur pouvoir cancérigène ou non, si vous voulez. Donc on est dans un abus ici, tout en sachant que le fœtus et le bébé sont des... sont, si vous voulez, des, on conditionne les femmes d'ailleurs à utiliser même ça pendant la grossesse. Oui. Pour elles, les mêmes types de cosmétiques, etc., en disant ben, on le donne à votre bébé, mais vous, vous pouvez aussi vous en servir quand vous êtes enceinte. Donc, alors que, si vous voulez, le fœtus est excessivement vulnérable. Alors, le bébé est excessivement vulnérable parce qu'il y a la voie cutanée. Il a une voie cutanée qui sait beaucoup moins se défendre. Il n'y a pas de mécanisme de défense par la voie cutanée que par la voie alimentaire et respiratoire. Et par ailleurs, quand on a un enfant né, il n'a aucun système de défense qui marche par cette voie cutanée. Donc déjà, la voie cutanée chez un adulte est beaucoup plus vulnérable que la voie alimentaire et respiratoire. Et là, en plus, chez l'enfant, là, vraiment, il n'y a rien. Donc tous ces produits vont passer dans la circulation sanguine de l'enfant et aller le contaminer. Pour ce qui est de la maman, c'est vrai qu'un très grand nombre de substances ne sont pas arrêtées par la barrière placentaire. Donc si la maman continue, pendant qu'elle est enceinte, à prendre des cosmétiques, eh bien, ça va passer la barrière placentaire. Ça va d'abord s'accumuler dans son tissu graisseux. Ça va passer la barrière placentaire et aller contaminer le fœtus. Donc, beaucoup de femmes enceintes qui ont été polluées antérieurement, qui ont accumulé dans leur tissu graisseux des polluants, qu'ils soient d'origine alimentaire ou respiratoire, ou qui se mettent en plus des cosmétiques pendant la grossesse, etc., eh bien, vont contaminer, sans qu'elles le sachent, leur enfant. Il y a deux enquêtes européennes qui ont été faites qui ont montré que tous les nouveau-nés testés, qui ont été testés, que ce soit au niveau du sang du cordon ombilical ou du sang du bébé, tenez-vous bien, contenaient une moyenne de 200 substances chimiques dont certaines d'entre elles étaient CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc nous sommes là, si vous voulez, avec un refus complet d'utiliser le principe de précaution, et donc là c'est inacceptable, c'est un véritable, si vous voulez, scandale aujourd'hui en matière de protection de notre santé. Nous sommes bien sûr vulnérables nous-mêmes, mais les enfants dès la période de grossesse sont excessivement vulnérables, et il faut manifester, c'est la raison pour laquelle avec d'autres collègues je monte au créneau à tous les niveaux pour que le message soit entendu, répondant en cela au serment d'Hippocrate, avec les deux sens du terme prévention. Prévenir, c'est non seulement éviter les maladies, mais c'est également informer la population. C'est ce qu'Hippocrate a fait 5 siècles avant Jésus-Christ à Athènes, pendant toute sa vie. Non seulement il a essayé que les épidémies n'arrivent pas, il a aussi informé la population, prévenir la population pour dire, essayez de faire cela pour éviter que vous soyez malade d'une épidémie. C'est aussi aujourd'hui ce que je fais, mais avec beaucoup plus de difficultés du nom d'Hippocrate, car nous allons le voir dans un instant, il se pose des politiques au niveau politique de santé qui sont tout à fait différentes, bien sûr, puisque le problème est devenu non plus seulement médical, mais sociétal, donc politique, comme je vais le dire dans un instant. La question que je me suis posée vers les années 2004, c'est est-ce que le cancer, ou 2003 même, est-ce que le cancer est le seul modèle de maladies liées à la pollution physique, chimique ou biologique de notre environnement? Eh bien, la réponse est non. Nous avons aujourd'hui une augmentation énorme de maladies également liées à l'environnement. Alors, bien sûr, les maladies infectieuses ont disparu, pas toutes, parce que vous avez ce qu'on appelle des maladies émergentes, des nouveaux virus qui apparaissent. Le sida est un type même de maladie émergente. Alors nous, dans notre pays, nous avons réussi à contrôler l'épidémie. Mais vous savez que dans le monde, il y a 35 à 40 millions de gens qui sont séropositifs, dont certains ont du sida. Et que la mort par sida, qui est infime dans notre pays, aujourd'hui grâce à la thérapie et aux mesures de protection, si vous voulez, ce n'est pas le cas dans tous les pays. C'est une mortalité encore phénoménale. D'ailleurs, la même chose, tuberculose, vous avez trois. Dans les pays du Sud, vous avez trois maladies qui grèvent l'humanité au niveau de la mortalité. Vous avez le paludisme, plus d'un demi-milliard de paludéens dans le monde, la tuberculose, qui fait encore des ravages, plusieurs millions de morts chaque année par tuberculose. Et vous avez le sida, bien sûr, plusieurs millions également de morts par sida dans le monde. Alors nous, chez nous, nous avons d'autres maladies. Alors nous avons Première, l'allergie. 12 millions de nos concitoyens sont allergiques aujourd'hui. Ça veut dire que, vous voyez un petit peu ce que ça peut faire au niveau de la sécurité sociale. Alors, très souvent, on accuse les médecins de trop prescrire, mais à partir du moment où il y a tant, autant de malades là, que par ailleurs, les traitements pour lutter contre l'allergie sont pas énormément efficace, vous voyez ce que ça peut faire. Ben, c'est normal qu'il y ait une augmentation de prescription. Ça, la sécurité sociale ne le dit jamais. Bon. Alors, je veux bien croire qu'il y a certains médecins qui abusent des prescriptions, tout à fait. Bon. Mais ça n'explique pas le phénomène au niveau de la santé publique. Allergie respiratoire, il y a un enfant sur sept qui est asthmatique en Europe. Un enfant sur sept asthmatique en Europe. En France, on est entre... On ne sait pas. On n'a pas les chiffres. On va vous dire... Mais c'est certainement du même ordre. Allergie également alimentaire. Alors à quoi est liée cette augmentation foudroyante des sujets allergiques? Deux causes. Certainement, les allergènes classiques. Alors ça, c'est chez soi éventuellement. Certainement les issures, certains les acariens, etc. Certaines substances naturelles, tout ça, ça persiste. Mais vous avez en plus, et c'est ça le point nouveau, certainement un certain nombre de substances artificielles qui sont mises dans l'environnement, qu'elles soient respiratoires ou alimentaires. Et pour ce qui est du respiratoire, certainement une allergie au pollen qui est augmentée. Pourquoi ? Réchauffement climatique. Aujourd'hui, vous savez que les saisons, si vous voulez... sont perturbés, qu'on vendange 3 semaines plus tôt, qu'on fait une récolte 1 mois plus tôt pour le blé, etc. On moissonne plus tôt. Et ce qui se passe, c'est que il y a une recrudescence par la chaleur, les grains de pollen éclatent, libérant des protéines allergisantes qui se trouvent dans les grains de pollen. Et donc, ça favorise, si vous voulez, le contact de ces protéines allergènes avec le système nerveux, ce qui fait que c'est l'interprétation actuellement, l'une des interprétations actuellement pour expliquer cette augmentation d'allergie phénoménale. Ces maladies créées par l'homme, là vous avez vraiment, indirectement, ici par le biais du réchauffement climatique, ce que j'ai pu écrire en 2004. Mais, autre maladie, je vous ai dit qu'on crevait de faim, c'est une métaphore bien sûr un peu dure, dans les pays du Sud, mais chez nous c'est l'obésité. L'obésité c'est une véritable épidémie d'obésité. En bon collaborateur, alors si vous voulez, les théories classiques est de dire c'est parce que s'il y a des gens gros, c'est parce qu'ils mangent trop. C'est vrai en partie, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer surtout les véritables obésités. Et là, mon collaborateur vient de démontrer formellement deux choses. Enfin, première chose, c'est que les polluants, notamment le benzoapyrène, qui est un hydrocarbure aromatique polycyclique, eh bien, est capable d'induire lui-même l'obésité en bloquant la mobilisation des graisses. Pour faire, si vous voulez, des gros, il faut deux choses. Il faut d'une part des adipocytes, c'est-à-dire des cellules de graisse en nombre suffisant, ça je vais y revenir, et par ailleurs que des acides gras arrivent en plus grande quantité dans ces cellules graisseuses et y restent. Parce qu'a démontré vos collaborateurs, c'est que ces acides graisseux, grâce aux polluants, si j'ose dire, font que les acides gras restent beaucoup plus longtemps dans le tissu graisseux. Autrement dit, c'est un tonneau d'adénaïdes qui est bouché. Les sujets qui sont gros, obèses, mangent pratiquement normalement par rapport aux autres. La seule chose, c'est qu'ils ne mobilisent pas leur graisse. Ce qui fait que tout ce qu'ils mangent se transforme en graisse. Ça aussi, ça aussi. Mais il y a un deuxième facteur, car ce facteur-là n'est pas suffisant pour expliquer l'obésité. Et là, on revient au fœtus. Il faut avoir un nombre. Lorsqu'un enfant naît, il a un stock de cellules graisseuses déterminées. Eh bien, on vient de démontrer que si la femme est contaminée lors de sa grossesse par un certain nombre de substances chimiques qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, cela va augmenter le stock de cellules graisseuses de son bébé. Alors, si vous avez 10 fois plus de cellules graisseuses que normalement, bah, même si vous mangez normalement et s'il y a en plus une pollution, bah, vous allez grossir. Et si vous voulez, et même pour le surpoids, ça joue aussi pour le surpoids, il est évident que... Tout le monde dit régime, régime, régime. Ben, le régime, ça n'est que le plus souvent éphémère, transitoire. Vous vous astreignez à maigrir. Si vous avez un nombre de cellules, si vous avez acquis pendant la grossesse, en tant que fœtus, un nombre de cellules adipeuses plus important que normalement, ben, le moindre écart de régime, etc., va faire que vous allez tout de suite reprendre du poids. Donc vous voyez que les femmes enceintes sont protégées et l'environnement a même sa place pour l'obésité. Alors, allergie, obésité, maladie du système nerveux central. Un enfant sur 150 est autiste aujourd'hui. C'est une explosion phénoménale. C'était une maladie rare avant la dernière guerre. On sait maintenant que c'est probablement lié à une intoxication par des métaux lourds, et en particulier par du mercure. Les intoxications mercuriales, c'est absolument prouvé. La femme, encore, quand elle est enceinte, a été avant, à son insu, intoxiquée par le mercure. Elle met un enfant au monde qui, lui, est autiste. J'ai vu une fois une femme, si vous voulez, je n'étais pas convaincu par cela, et lors d'une conférence, ça remonte à 2 ans environ, je vois, à la fin d'une conférence, une femme qui arrive me voir en pleurs. Docteur, vous n'avez pas parlé de l'autisme. Voilà, je lui réponds, mais madame, vous savez, il y a tellement de maladies aujourd'hui, j'aurais pu parler de... Oui, je n'ai pas parlé, mais parce que je ne suis pas convaincu que ce soit lié à l'environnement, enfin bon. Elle dit, docteur, j'ai mis au monde 3 enfants autistes. 3 enfants autistes. Là, je dis, mais... Et j'avais à chaque fois des taux de mercure qui étaient très importants parce que je travaillais dans une fabrique où on manipulait du mercure. Je peux vous dire qu'aussitôt rentré à Paris, j'ai demandé à mon collaborateur de chercher tous les documents, toute la littérature scientifique sur les liens entre métaux lourds, mercure et autisme. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert la chose suivante, qu'il y a un certain nombre de publications qui font le lien, non seulement au niveau de l'épidémiologie, mais au niveau de la toxicologie. Et donc manifestement maintenant, c'est de plus en plus démontré. L'un des meilleurs spécialistes en Europe, c'est le professeur Grandjean que j'ai rencontré. Il est clair qu'aujourd'hui, si vous voulez, et d'ailleurs l'Europe, au niveau de la Commission de Bruxelles, maintenant, élimine le mercure. Mercure, on le trouve partout. Alors, on le trouvait dans les thermomètres, etc. Mais on le trouvait partout, et surtout sous forme de vapeur, si vous voulez, sans qu'on sache que ces vapeurs existent, qu'on respirait. Donc c'est comme une élimination respiratoire. Autisme aussi, je pourrais aller beaucoup plus loin, maladie dégénérative du système nerveux. La maladie de Parkinson, vous savez, la maladie de l'ancien pape, là, le tremblement, le fait qu'on est un peu gâteux, etc., etc. Bien, ça survient actuellement de plus en plus souvent chez les sujets jeunes qui ont 40-45 ans. Et on sait pertinemment que c'est lié à des pesticides maintenant. Même l'Alzheimer, qu'on dit est une maladie de la vieillesse, est liée en partie aux pesticides. Cela vient d'être démontré par une équipe de Bordeaux qui pense qu'il y a un risque multiplié par 2 d'Alzheimer en zone contaminée par les pesticides. Et c'est donc là la ruralité qui est en jeu. Il y a probablement plus de maladies d'Alzheimer en zone rurale qu'en zone citadine. Je pourrais vous parler encore de beaucoup d'autres maladies, les maladies cardiovasculaires liées à la pollution chimique en zone citadine, etc., etc. Je vais m'arrêter là, mais avec tout le dernier point, la stérilité qui est probablement le plus... les troubles de la reproduction et les malformations congénitales qui sont certainement les troubles les plus importants. Le nombre de malformations congénitales de l'appareil urogénital a été multiplié par un facteur 50 depuis ces 20 dernières années. Alors, elles sont très rares, elles augmentent par 50 dans toutes les cliniques. Il y a plus. C'est des petites filles qui naissent avec des seins adolescentes ou des petits garçons qui naissent avec des testicules qui ne sont pas descendus dans les bourses, qui sont restés dans le ventre, et avec des taux de l'urètre. Donc, ça, on sait que c'est lié aux pesticides. Les troubles de la reproduction. Il est évident que déjà, lorsque vous naissez avec des anomalies des testicules, avec des anomalies de la spermatogénèse chez le petit enfant, des anomalies de l'ovulation chez la petite fille, il est évident que ça ne va pas aller très loin au niveau de la fabrication des enfants. Aujourd'hui, en Europe, il y a 30% de couples qui n'ont pas d'enfants. 30% de couples qui n'ont pas d'enfants. Sur ces 30% de couples, la moitié, c'est-à-dire 15% de l'ensemble, qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils n'en veulent pas. Pour des raisons psychologiques, sociales, économiques, prise de pilule. Ce n'est pas de cela dont on parle. C'est des 15% de l'ensemble des couples qui veulent des enfants qui n'en ont pas. La femme a peut-être pris la pilule pendant un certain temps, elle a arrêté de prendre la pilule, le couple veut un enfant et n'y arrive pas. Troubles de la reproduction, infertilité, éventuellement stérilité. On sait là encore que ce sont des pesticides et d'autres substances chimiques en ville comme en zone rurale. Deux études ont été faites en Europe pour le démontrer. Bien sûr, tout ceci est occulté par notre pouvoir politique, sauf par un rapport de l'ONU qui dit tout simplement que la facture, l'Europe a la payée. L'Europe est devenue un berceau vide dans le monde, puisque le nombre de moyens... Nous sommes en France des champions, avec pratiquement 2 enfants par femme, un peu moins, mais 2 enfants par femme. Mais si vous prenez tous les autres États membres de l'Union européenne, la moyenne, c'est de 1,4 enfants par femme. Autrement dit, selon ce rapport de l'ONU, c'est bien ça, nous allons perdre 125 millions d'habitants. L'Europe va perdre 125 millions d'habitants dans les 50 ans qui viennent. Ce sont les chiffres officiels. Avec des pays qui vont prendre la moitié de leurs habitants. L'Espagne est très bien placée avec 1,1 enfant par femme. Et d'autres pays, si vous voulez, tels que les pays de l'Est notamment, c'est guère mieux. Et si on met la Russie dans la grande Europe, là, ils risquent aussi d'avoir d'énormes problèmes, car les taux de natalité sont devenus excessivement bas. Alors voilà, vous voyez, c'est un panorama qui est catastrophiste. Alors il va falloir tout de même trouver des solutions. Et essayer tout de même de croquer la vie d'une autre façon, si j'ose dire. Et puis, nous sommes dans un bistrot. À la limite, c'est pas plus mal. Parce que cet ancien concept de dire que c'est dans le bistrot, c'est un lieu de perdition, qu'on picole, qu'on fume, ben maintenant on fume plus. Et puis ce soir, on démontre qu'on picole avec, de façon raisonnable, avec discernement. Et que, à la limite, pourquoi pas? Pourquoi les bistrots, et ça je rejoins tout à fait l'initiative de Jean Bochereau, pourquoi les bistrots ne redeviendraient pas ce qu'ils étaient au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, je dirais des lieux d'information, de discussion, de convivialité, pour préparer justement philosophiquement notre futur. Et si vous voulez, moi, tout simplement, je suis très content d'être là ce soir parce que je trouve que nous sommes ici les nouveaux encyclopédistes, les encyclopédistes du 21e siècle, c'est-à-dire que nous sommes là pour aborder des problèmes difficiles, mais avec raison, bon sens, ne pas faire de politique de l'autruche. Et nous dire que, bien que le tableau soit très sombre, il y a des solutions. Et c'est sur ces solutions-là que je voudrais insister maintenant, si j'ai encore un petit peu de temps. Il est évident que ces solutions ne vont pas venir des pouvoirs publics, car nous sommes en présence d'une omerta complète à tous les niveaux. Cette omerta, par un certain nombre de scientifiques qui sont achetés par les lobbies industriels, une omerta par les industriels dont le seul objectif, c'est de faire de l'argent. Je suis par contre le fait qu'une société doit faire des bénéfices, pas du tout ça. Mais quand ça devient des bénéfices au détriment d'autrui, au détriment de la santé, ceci est inacceptable. Bien sûr, le pouvoir politique n'a strictement rien compris, puisque nous sommes dans un système économique où on va aller chercher le point de croissance entre les dents. Le drame, c'est que cette croissance, si vous voulez, en ce moment, si vous voulez, ça tombe, et que le 1% de croissance, on l'aura peut-être même pas, même si on va le chercher avec les dents, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui. Car, ne nous cachons pas les yeux, nous sommes à la veille d'une crise majeure de société, je dirais une crise civilisationnelle et planétaire. Il y a le monde d'avant s'écroule, il y a un nouveau monde à reconstruire. Il faut en prendre conscience. Et il faut savoir aussi que compte tenu de ce déni complet, sociétal, à tous les niveaux, scientifique, économique, industriel, politique, c'est à la société civile de prendre le relais aujourd'hui. Et c'est pour cela que ce type de réunion est excessivement importante, mais importante, pas uniquement si on reste là en train de se dire que tout va mal, importante si, revenu chez soi, on est là en train de se dire on va se mobiliser maintenant. Car, si vous voulez, ça n'est pas de nos politiques en général. Bien sûr, il y a des exceptions. Monsieur le maire en est peut-être une exception. Mais, si vous voulez, ça n'est pas en général de nos élus qu'il faut attendre le salut. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est absolument ce qu'il faut se dire. La balle est dans notre camp de citoyens. On nous met toutes les maladies de notre faute, ce qui est absolument faux. Il faut comprendre que les maladies d'aujourd'hui sont d'origine environnementale et que c'est la société qui crée ces maladies. Alors, si vous voulez, par le biais des maladies, j'en suis arrivé là. je suis arrivé à être un véritable révolutionnaire, comme étaient les encyclopédistes au moment du XVIIIe siècle. Il faut maintenant que ce monde change, et change le plus vite possible, avec le moins d'effusion de sang, bien sûr, possible. Ceci est à considérer. Mais au niveau sanitaire, qui est ma préoccupation première, à la fin du XIXe siècle, il y a eu également un changement de paradigme. Puisque à l'époque, tout le monde disait que les maladies, et tout le monde croyait à la génération spontanée, et tout le monde disait que les maladies, c'était des miasmes, c'était des vapeurs bizarroïdes qui sortaient des coins insalubres. On n'était pas du tout dans les microbes. Et lorsque Pasteur a proposé sa théorie des germes, il avait des microbes, il avait 99,9% du corps médical contre lui. Il a fallu sa ténacité, son courage, un certain nombre d'élèves qui ont relayé, le combat de Robert Koch en Allemagne aussi, pour faire accepter enfin, un certain nombre de médecins également, qui ont fini par comprendre, pour faire accepter enfin que les maladies venaient bien de l'environnement extérieur, qu'elles n'étaient pas dans le corps, comme on croyait depuis Hippocrate, et qu'elles provenaient du corps. Et donc, il fallait rechercher les microbes, et donc ces maladies, c'était pas nous qui les fabriquons, parce qu'il y a aussi la thèse que c'était d'origine psychologique. C'était nous, parce que nous avions un profil psychologique inadapté, que c'était nous, à cause de notre mental, qui fabriquions les maladies. Vous vous rendez compte? Et on a la même chose avec le cancer. Beaucoup de gens ne connaissent pas bien le sujet, mais moi maintenant, vous disent « Ah bah oui, mais le cancer, c'est parce qu'il y a des sujets qui ont le cancer, parce qu'il y a le stress, les maladies, etc., etc. » Le psychisme, bon. Le stress intervient un petit peu, mais ne déclenche pas la maladie. Alors, si vous voulez, il est clair que du temps de Pasteur, les médecins ont fini par comprendre que c'était les microbes qui se trouvaient dans l'environnement. Alors, mais il a fallu se battre pour cela. Et du temps de Pasteur, l'hygiène est apparue, mais les politiques ont tout de suite dit, bon, bah, écoutez, d'accord, vous êtes les médecins, les hygiénistes, les ci, les ça, etc., très bien, bah, écoutez, occupez-vous-en, on va vous créer un ministère. Et c'est pour la première fois qu'on a créé les ministères de l'hygiène. D'abord, puis après, ministère de la Santé, puis après, ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Confondus ou séparés, plus ou moins, en fonction du type de gouvernement. C'est évident que, si vous voulez, les ministères de la Sécurité sociale étaient plus souvent créés lors de ce qu'il y avait une politique de gauche qu'une politique de droite. C'est évident. Bon. Aujourd'hui, le problème, il est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que, alors que du temps de Pasteur, c'était l'environnement naturel qui était en cause. Il n'y avait pas de responsabilité. L'industrie continuait, l'artisanat, tout ça, on ne s'en occupait pas. Aujourd'hui, à partir du moment où on dit que ce n'est plus l'environnement naturel qui est en cause, mais l'environnement artificiel, il est clair que de médical, le problème devient sociétal, puisqu'il remet en cause les activités humaines, et à partir de ce moment-là, de sociétal, il devient politique. Et donc, si vous voulez, c'est là toute la difficulté. Du temps de Pasteur, pas de combat politique, un combat uniquement de conviction scientifique, médicale. Aujourd'hui, un combat de conviction scientifique, médicale et politique. Car en plus de cela, il y a l'urgence à agir. Car aujourd'hui, si les gens qui se contaminent, ce n'est pas les générations futures qu'il faut protéger, c'est la génération d'aujourd'hui qui est déjà en voie de contamination. Et si on y rajoute tous les phénomènes liés aux modifications du climat, je ne vais pas développer cela, il est évident que nous avons une urgence à agir. C'est ce que je dis dans mon dernier bouquin, avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'espèce humaine, car c'est là le vrai problème, article 3 de l'appel de Paris, se mette elle-même en danger, dans sa survie elle-même, en danger, mettre sa survie elle-même en danger, avec les modifications climatiques, l'apparition d'une stérilité structurelle, l'apparition d'une famine, l'apparition, si vous voulez, de pollution des sols irréversible, comme c'est le cas aux Antilles, où par exemple un polluant, un pesticide qui s'appelle la chlordécone, tenez-vous bien, est fixé dans le sol non pas pour des siècles, mais pour probablement un millénaire. Et on sait que c'est que ce pesticide-là qui réapparaît dans les eaux de rivières, etc., aujourd'hui, est une substance CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique, et donc que ça va être, pour ce qui est des Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe, 40 générations concernées par cette pollution. Nous avons donc à agir, et agir d'une part individuellement, nous protéger, je donne un certain nombre de règles dans le cancer, guérir du cancer sans protéger. Et ces règles seront données également dans le cadre d'une campagne nationale que nous allons faire. J'espère que vous serez un relais ici de cette campagne, campagne de santé publique, si vous voulez, qui va donner, sous forme d'une douzaine de recommandations, ce qu'il faut faire pour éviter de faire un cancer, tenter d'éviter de faire un cancer, parce que c'est jamais acquis à l'avance, et se protéger également contre les autres maladies, car les précautions pour le cancer, si vous voulez, vont servir aussi pour les autres maladies, puisque c'est de la prévention environnementale. Se protéger individuellement, mais aussi faire que la politique, notre politique nationale, change. Il est évident qu'aujourd'hui, notre politique de santé publique n'est pas à la hauteur des enjeux que nous avons à surmonter, et qu'on n'a rien compris. On n'a pas compris que, si vous voulez, un grand nombre de maladies étaient liées à l'environnement, on n'y touche pas. Tabagisme, alcoolisme, ça, on met la balle dans le camp des citoyens, c'est suffisant. Alimentation, ben vous bouffez mal, tant pis pour vous, vous aurez une maladie, etc. etc. On ne veut pas voir. Les choses en face, on fait une politique de l'autruche. D'autant que, au plus haut niveau, on met, si vous voulez, l'homme, la santé, au service de l'économie, et non pas comme cela devrait être, l'économie au service de l'homme et de sa santé. Et que même le Grenelle de l'environnement, si vous voulez, ben, espérons que la montagne qu'il a déclenchée ne va pas accoucher d'une souris. Non, pas trop de procès d'intention encore. Une réserve. Alors, je voudrais revenir sur encore le défaut complet, la méconnaissance des problèmes de santé, de notre politique de santé aujourd'hui. Il est évident que ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'on supprime une des maternités dans le coin, c'est une aberration complète. Pourquoi ? Ben, d'après ce que j'ai pu comprendre, si une femme, lorsqu'une femme rompt sa poche des os, il faut faire 50 km pour arriver à un ovaire qui est là. Bon, donc, ça veut dire qu'elle risque d'accoucher dans l'ambulance. Hein. Bon. C'est supprimé aussi, d'après ce que j'ai compris, à Avallon. Bon. Donc, si vous voulez, on est en train aujourd'hui, cette chose-là est évidente. Bon. Alors, bien sûr, il ne faut pas multiplier non plus les structures de soins, mais il y a un juste équilibre à tenir. Et que, si vous voulez, là, c'est manifestement créé une espèce de désert sanitaire ici, pour toutes les autres maladies d'ailleurs. Alors là, le calcul est tout à fait mauvais au niveau politique. Pourquoi ? Parce qu'on réduit les structures de proximité tout simplement pour faire des économies, puisque les caisses de l'État sont vides. Malheureusement, on va augmenter les coûts d'une façon très claire, parce qu'il va y avoir des trajets d'ambulance, et comme l'essence va coûter de plus en plus cher, ça va devenir de plus en plus cher. Alors, M. de Souza va y gagner, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a monté son système d'ambulance. Il ne me l'a pas dit, mais j'ai tout à fait compris son message. Il m'a dit qu'il avait 40 véhicules, il en aura 80 bientôt, avec tout ce qui va arriver. Bon. Donc, si vous voulez, il y en a qui vont tirer leur épingle du jeu. Bon. Alors, il pourra faire plus de réunions ici dans son bistrot, gratos, bien sûr. Hein. Il pourra inviter tout le monde à tourner, parce qu'avec tout ce qu'il va gagner avec ses ambulances, là, il aura de quoi nous inviter gracieusement. Bon. Ceci étant dit, ça ne va pas pour autant résoudre le problème de la santé localement, eh ben, ni des femmes qui accouchent. Alors, je pense que nous avons oublié quelque chose de fondamental. Autour des centres très sophistiqués, les hôpitaux, évidemment, on ne va pas mettre des CHU partout, ce n'est pas possible, des centres hospitaliers universitaires ou des centres régionaux, non. Mais il faut rétablir les dispensaires. Les dispensaires qui ont vu leur jour, si vous voulez, pour le traitement de la syphilis, la tuberculose, etc., il y en avait très nombreux, qui étaient des structures qui avaient une vision sociale en plus. Car nous sommes en plus devant une inégalité sociale majeure actuellement. Il est évident que la raréfaction de ces structures de proximité crée un handicap et donc une inégalité. Si j'habite juste en face d'un CHU, j'aurai de toute façon beaucoup plus de chances d'être mieux soigné que si j'habite à 60 km. Bon. Inégalité aussi au niveau J'en profite, une égalité au niveau... Alors, contrairement à ce qui est dit, je ne pense pas qu'il y avait une inégalité flagrante au niveau des soins. Car si vous voulez, en tout cas, il n'y a pas de sélection au niveau du malade. Les médecins ne font pas de sélection de malades. Le pauvre comme le riche sont soignés dans les hôpitaux, si vous voulez. Alors, bien sûr, il y a ceux qui sont riches qui veulent se faire soigner avec une télé en couleur, un téléphone, etc., etc., des moquettes, etc., bon, du confort. Mais les médecins qui sont dans ces structures tout à fait riches, etc., ne sont pas forcément meilleurs que les médecins qui font une médecine de terrain ou qui sont, si vous voulez, dans des CHU publics. Bon. Donc, si vous voulez, c'est une erreur de dire qu'il y a une inégalité des soins aujourd'hui, je ne pense pas. Ça peut arriver, bien sûr, mais enfin, ce n'est pas général. Par contre, il y a une inégalité majeure au niveau de l'exposition aux facteurs de risque. Alors, si vous habitez en face d'une... au pied d'une ligne à haute tension, si on vous met une antenne relais au-dessus de votre maison, si vous êtes à côté d'un agriculteur qui vous balance des pesticides, etc., etc., vous êtes manifestement, si vous voulez, il y a une différence qui se pose. Donc il y a, à mon avis, une inégalité qui est plus au niveau de l'exposition aux facteurs de risque qu'au niveau de la qualité des soins. Alors il faut rétablir le dispensaire. C'est un argument politique majeur. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que nos politiques de droite comme de gauche ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe. Je dis bien de gauche comme de droite. Je les côtoie sans aucune restriction, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, tout ce que vous pouvez imaginer. J'oublie un peu les extrémités. Bon. Mais si vous voulez, eh bien, je leur dis très souvent, la santé, l'environnement, c'est pas une affaire de couleur politique, c'est tous dans le même bateau. Et ça, bon. Ils comprennent. Enfin, non, la société civile comprend ça, mais eux ils disent, bon, votre environnement, vous m'ennuyez avec ça, il n'y a rien éprouvé, tout est à faire, etc. Par contre, il faut que la France, si vous voulez, la croissance, l'économie, la compétition internationale, tout le train-train habituel. Voilà. Alors, j'en ai terminé là. Il est évident qu'il faut qu'on se réveille politiquement. Il faut que, manifestement, si vous voulez, le bulletin dans l'urne serve à quelque chose. Si vous avez la chance d'avoir un député, quelle que soit sa couleur, qui a compris que l'environnement était une cause majeure et qu'il fallait vraiment reconstruire l'avenir. Il y a des moyens, il y a des solutions techniques, mais le meilleur des moyens, c'est le principe de précaution. Et il est évident que nous avons dépassé la ligne jaune de la pollution, qu'il faut revenir à des activités humaines au service de l'homme, et non pas que nous soyons, nous, autres citoyens, les moutons de Panurge, nous sommes au bord d'un précipice, on nous dit « avancez ». Eh bien, il faut savoir quelquefois dire « non, je n'avancerai pas ». Je me bats de façon, j'ai compris ce qui se passait, je me bats contre les gens qui n'ont pas compris. Voilà. Alors, je suis bien sûr à votre disposition. J'ai été un peu long, je ne sais pas. Non, ça allait ? Bon. Alors maintenant, comme je suis certainement un grand menteur, j'ai l'accusation, mais est-ce qu'il y aurait un avocat dans ma salle? La question est là. J'espère que j'aurai au moins un avocat dans la salle, si on m'accuse.
Je voulais savoir quel était le pourcentage de guérison du cancer.
Un malade sur deux actuellement, et ce sont de vraies guérisons. Un tout petit peu moins d'un sur deux, puis c'est pratiquement un sur deux, donc ça c'est un problème majeur. Le vrai problème, c'est que nous sommes... Si vous voulez, nous, au niveau des recherches aujourd'hui, nous avons pratiquement épuisé. Il n'y a pas que la nature qui est limitée, les traitements aussi sont limités. Nous avons épuisé la plupart des thérapeutiques jugées efficaces. La chirurgie ne fera plus de progrès, pratiquement plus. La radiothérapie ne fera pratiquement plus de progrès. Pour ce qui est des médicaments, notamment la chimiothérapie, on est au maximum des progrès. Il y aura peut-être encore un petit peu de progrès, mais c'est la raison qui m'a poussé, si vous voulez, à aller vers cette arme. Qui n'ont pas à viser curatrice, mais qui est la prévention, donc à viser d'éviter la maladie.
Et qu'est-ce que vous pensez des recherches qui sont faites actuellement sur le manque d'irrigation des cellules cancéreuses qui se développent, elles, avec le...
Ce sera un petit plus, mais certainement pas une révolution. Vous savez, j'ai vécu le moment où on disait qu'on allait guérir le cancer par immunothérapie. Maintenant, après, on nous a dit que la thérapie génique, c'était extraordinaire, ça allait guérir le cancer. À un moment donné, ça permettait aux chercheurs d'avoir beaucoup d'argent. Maintenant, on nous dit que les inhibiteurs de la néoangiogénèse vont guérir du cancer. ça va apporter probablement un petit plus. Nous testons un certain nombre de molécules actuellement à l'hôpital européen Georges Pompidou, mais certainement pas une révolution. Ça n'éradiquera pas le fléau cancer.
Merci.
Un dépistage plus tôt. Et un dépistage très tôt.
Alors, le dépistage, vous avez tout à fait raison, dépistage et diagnostic précoce font partie de la prévention secondaire. Il faut absolument, vous avez tout à fait raison de poser cette question-là, il faut absolument que dans le cadre du dépistage organisé qui est mis en place pour les cancers du sein, et je crois ici pour les cancers du gros intestin, je ne sais pas si c'est mis en place dans votre département, ça l'est, il faut absolument répondre aux convocations. C'est entre 50 et 74 ans, il faut que les femmes aillent se faire dépister. Et là, nous avons un record malheureux en Europe, c'est qu'il y a à peu près que 45% des femmes, qui, globalement, hein, qui répondent à leurs convocations. Il y a des départements qui font mieux que d'autres. Enfin, la moyenne est à 45, même 50%. Pour que le dépistage organisé soit efficace, il faut 80% des femmes qui, ou d'hommes pour les cancers du côlon, enfin bon, ils répondent à cet appel de dépistage. Alors, ça peut donner un plus, mais ça ne résoudra pas le problème de santé publique parce que nous sommes encore dans le dépistage dans la maladie. Ce que fait le dépistage, c'est que ça améliore le pronostic. C'est-à-dire qu'ayant un petit cancer, vu tôt, on va guérir. Pratiquement 100% des cas de guérison. Quand vous faites dépister ou diagnostic précoce un cancer, vous avez pratiquement 100 chances sur 100 de guérir, à un poil près. Donc ça améliore le pronostic, mais pas le fléau de santé publique au niveau général, pas l'incidence. C'est pour ça que la seule façon de jouer sur l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, c'est la prévention primaire, c'est retirer les facteurs de cancérisation, et là, en l'occurrence, jouer sur l'environnement. Attendez, chère madame, parce qu'il faut aussi que ceux qui sont désavantagés, qui sont derrière, aient aussi le droit à la parole.
Il y a ceux qui sont moins l'équité, partout.
La parité, l'équité. Hein. D'ailleurs, il faudrait faire un homme, une femme, ce serait pas mal. Hein.
Non, c'est parce qu'il y a ceux qui sont moins exposés à la parole et qui
peuvent aussi poser des questions. C'était à qui? Alors, mais il n'y a pas de personne dans le fond, là, derrière, qui ont demandé la parole. Non, là, madame, alors allez-y.
Est-ce qu'on peut faire la recherche des antigènes carcino-embryonnaires? Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais ça doit exister.
Si, ça se dit. Ouais. Ça se dit, mais ce n'est pas un marqueur de détection. C'est un marqueur d'évolution de la maladie. Certains ne l'ont pas. Donc, vous pouvez avoir un cancer malgré le fait que ces antigènes soient normaux. Et puis, mais par contre, si vous voulez, quand vous avez un test positif, a priori, vous avez de grandes chances, malheureusement, d'avoir un cancer. Mais ça sert surtout avoir l'efficacité des traitements. Si ce marqueur diminue, le traitement est efficace. Si ce marqueur augmente, là, le traitement est inefficace. Voilà. Et la dame.
Oui, ma question était simplement pour beaucoup de foyers. Que pensez-vous de l'utilisation des appareils à micro-ondes?
Oui, alors écoutez, je n'ai pas de réponse définitive, mais en tout cas, je n'utilise personnellement pas le micro-ondes et je vais vous dire pourquoi. Faites l'expérience suivante. Vous achetez un plat tout préparé, vous le réchauffez au micro-ondes. Et puis, pour une raison X, vous décidez de ne pas le manger. Donc, vous le faites refroidir et puis vous le remettez à nouveau au micro-ondes. Essayez de manger votre plat, vous verrez ce que ça donne. Perte de goût, perte d'odeur, perte de flaveur, perte de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a dénaturé les protéines complètement. Alors, si les micro-ondes sont capables de dénaturer les protéines, ça veut dire qu'ils sont capables de rendre un certain nombre d'entre elles toxiques, et en particulier cancérigènes. Donc, si vous voulez, je trouve qu'il faut revenir. Ce sont des conditions, si vous voulez, des recommandations que nous ferons lors de notre campagne. Il faut revenir à la chaleur thermique. Je ne dis pas au feu à bois, pourquoi pas à la limite, ça a une certaine saveur. Mais en tout cas, la chaleur thermique au four ordinaire. Voilà. La cuisine est meilleure parce que si vous cuisez un plat au four ordinaire, eh bien, même quand vous le réchauffez, il a gardé toute sa saveur, tout son goût. Une choucroute est même presque meilleure quand on l'a réchauffée que cuite en premier lieu. Donc vous voyez que la chaleur thermique a des vertus qu'il ne faut pas négliger.
Moi, j'ai deux points. Premièrement, j'aimerais revenir sur la question de la fermeture des maternités. Je pense que M. de Souza ne va pas s'enrichir longtemps parce que les jeunes, à plus ou moins court terme, vont quitter les zones rurales.
et je crois que ça a déjà commencé, premièrement. Et deuxièmement, j'aimerais que vous nous en disiez plus sur le dépistage du cancer de la prostate qui est remis en question sous prétexte que, à partir d'un certain âge, un cancer de la prostate évolue plutôt favorablement, disons que dans la norme des choses.
Vous posez deux questions pertinentes. La première, ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Malheureusement, pour M. de Souza, il va même s'appauvrir, si je comprends bien. Donc, si vous voulez, il va falloir qu'est-ce qu'il va falloir faire. Bon, ça, c'est un gros problème. Bon, il va falloir qu'il fasse comme les industriels. Il va falloir qu'il fasse de la qu'il ait plus de bistrots encore. C'est qu'il en a deux, donc qu'il fasse des amalgames comme ça pour que son entreprise marche mieux, c'est-à-dire des fusions d'entreprises. Quoi. Voilà ce qu'il faudra qu'il fasse. Bon, pas le conseil de donner. Ce qui est grave dans tout ça, c'est qu'on ne pourra pas avoir des consommations gratuites, si je comprends bien. Bon, alors, bon, donc, le deuxième point, la question est tout à fait pertinente. Je me demande si vous n'êtes pas du corps médical, vous n'êtes pas infirmière ou médecin.
Oui, mais enfin, je ne l'apprends pas à l'hôpital parce que je ne parle pas de ça. Bon.
Alors, je suis persuadé personnellement que, si vous voulez, l'augmentation de l'incidence, non seulement persuadé, mais nous avons démontré par des publications scientifiques que l'augmentation d'incidence des cancers de la prostate n'est pas liée à un meilleur dépistage. Autrement dit, on les dépiste, certes, ça fait qu'on dépiste des stades 1 et 2, c'est-à-dire des petits stades, mais qu'il y a un véritable problème de santé publique et on suspecte, bien sûr, une cause environnementale à l'origine des cancers de la prostate. Alors maintenant, est-ce que les PSA... Est-ce qu'on peut mettre à dépistage? Quelle est la valeur du dépistage par un test qui est très simple? C'est une prise de sang et avec le dépistage d'un antigène spécifique de la prostate, qu'on appelle le PSA. Eh bien, si vous voulez, je suis persuadé que ce dépistage, qui n'est pas organisé aujourd'hui, mais qui est fait au cabinet de chaque médecin, parce que les médecins ne sont pas fous, en particulier les médecins généralistes, ben, quand ils voient un homme de 55 ans qui arrive et qui lui demande... Écoutez, il y a tellement de cancers de la prostate autour de moi que, et puis j'ai une chance sur 5, malheureusement, d'en faire un. Est-ce que vous pourriez me faire une prise de sang pour savoir si j'en ai un ou pas? Bon. Bah, le médecin, il dit, bon, bah, d'accord, ok. Donc aujourd'hui, il y a manifestement une augmentation du nombre des tests qui sont faits et on découvre de plus en plus de petits stades. Bon. Et contrairement au pouvoir public, aujourd'hui, aux bons penseurs franco-français, qui disent que les PSA ne servent strictement à rien. Donc, contrairement à ce que pense chacun des médecins dans leur cabinet, qui, eux, ben, réagissent un peu tout de même au nom du serment d'Hippocrate quelquefois, bon, eh bien, là, il y a une étude anglo-américaine qui vient de démontrer formellement que de dépister des cancers du sein en faisant des PSA, ça diminue de façon considérablement la mortalité par cancer de la prostate. Donc vous voyez qu'il y a un intérêt au dépistage. Alors aujourd'hui, il n'est pas organisé. Il est fait par la plupart des généralistes. Si vous voulez, ben, il faut les inciter à continuer parce qu'ils font un très bon boulot. Voilà.
Oui, pour en revenir au micro-ondes, que penser des biberons réchauffés et qui sont eux-mêmes en plastique dans les micro-ondes à longueur de journée?
Ben ça, il faut revenir, je vais vous dire, pas à cause uniquement des micro-ondes, mais certainement il faut revenir aux biberons en verre. Biberons en verre, pourquoi? Parce que vous avez, en plus, sous l'effet de la chaleur, dans le plastique du biberon, vous avez du biphénol A, qui est une substance excessivement toxique, qui va donc passer dans le lait de l'enfant. Donc, avec des biberons en plastique, vous contaminez votre enfant par un biphénol A, qui est une substance CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique. Ceci est essentiel. Revenir au biberon en verre.
Et d'autre part, on parle beaucoup de pesticides, mais que penser des traitements, puisque nous sommes dans un pays d'élevage, des petits veaux et des animaux qui sont traités à tout va à longueur de journée? Et même si on veut extrapoler, le fumier qui lui reçoit aussi tous ces antibiotiques et toutes ces substances.
Voilà, attendez, là, vous posez beaucoup de choses. Bon, beaucoup de questions. Non. Pour ce qui est des veaux, je vais vous dire très franchement, mon éthique personnelle, je ne mange pas de veau. Je ne mange plus de veau depuis au moins 10 ans, 15 ans. Et je pense que là, nous avons, nous, en tant que société civile, un rôle à jouer. Nous pouvons tout à fait faire en sorte que si vous voulez, nous modifions dans cette société de marchandisation, de consommation, nous modifions les pratiques. Je trouve aujourd'hui qu'il est inacceptable dans nos éthiques que nous mangeons du veau. Pourquoi ? Il est clair que nous sommes des omnivores et que nous devons manger de la viande, en particulier les enfants, et même les personnes âgées doivent manger un minimum de viande. À partir d'un certain moment, on peut en manger moins. Deux fois par semaine suffit. Mais quand on est en période de croissance, donc enfance, adolescence, etc., il faut manger de la viande, pas en excès, mais suffisamment de la viande. Or, si vous voulez, au niveau des veaux, il y a bien sûr ce que vous dites, c'est-à-dire qu'ils sont élevés dans des conditions quelquefois abominables, avec des antibiotiques, des hormones de croissance et autres, etc. Mais surtout, je trouve qu'il est inéthique de manger de la viande de veau. Laissons ces animaux vivre en paix jusqu'à ce qu'ils deviennent des bœufs. Effectivement, à un moment donné ou à un autre, ben, il va bien falloir les sacrifier. Je vous rappelle qu'autrefois, vous savez, au niveau des pratiques ancestrales, nous aurions beaucoup de mérite à revenir sur les pratiques de nos ancêtres. Quand on tuait le cochon, c'était une fête familiale. On invitait les amis, etc. Et on tirait au maximum parti du cochon. C'était presque symbolique, la mort du cochon. Eh bien, aujourd'hui, je pense que sans vouloir refaire que chaque bœuf tué soit un événement symbolique, au moins respecter la vie de l'animal jusqu'à, disons, un certain âge, et donc ne pas manger de veau. Voilà. Donc, il y a des raisons, à mon avis, médicales, proprement dit, sanitaires, proprement dit, et je dirais aussi éthiques, pour faire que nous ne devons pas manger de veau.
Oui, bonjour. Que pensez-vous des limites de la thérapie aujourd'hui au niveau contre le cancer, notamment chimiothérapie, radiothérapie, etc. Sachant que vous dénoncez tout ce qui est pollution chimique, c'est quand même des traitements pour le moins chimiques. Donc déjà le paradoxe entre les deux. Voilà, je voudrais avoir votre avis sur la question. Alors, en sachant qu'il y a des limites, puisque effectivement, vous dites bien, il n'y a qu'une personne sur deux qui s'en sort.
Si vous voulez, le paradoxe. Et je l'ai eu très tôt, cette notion de paradoxe, en me disant pourquoi, comment. Bon. Et en fait, la réponse est un problème de dose. Tout est un problème de dose. Et c'est là l'énorme problème. Et vous posez d'ailleurs une excellente question. La pollution par l'environnement se fait à faible dose, comme je l'ai dit. Les traitements, que ce soit la radiothérapie ou la chimiothérapie, se font à forte dose. C'est-à-dire qu'on a une dose cytotoxique. On a des doses qui détruisent la cellule. À faible dose, ça mute, les cellules mutent, c'est-à-dire perturbent ces petits microprocesseurs dont je vous ai parlé, et à forte dose, on détruit les cellules. Donc les traitements anticancéreux sont faits à forte dose, d'où d'ailleurs leur difficulté à être tolérés, alors que c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'y a pas de traitement anticancéreux efficace à faible dose. Souvent les malades viennent voir en disant « écoutez, donnez-moi un médicament, mais à faible dose, non. » Par définition, ils ne sont efficaces qu'à relativement forte dose. Alors que la pollution se fait à faible, très faible dose, à des doses infinitésimales. Voilà toute la différence. Donc il n'y a pas de paradoxe. C'est un paradoxe apparent, en tout cas. C'est un problème de dose.
Oui, et puis ensuite, moi la question que je me posais, c'est par rapport justement à la réflexion autour du cancer. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de, comment je pourrais dire, que tous les acteurs autour du cancer se rencontrent? Parce que forcément, l'analyse scientifique, c'est une certaine vision par rapport à cette maladie. Est-ce que ce serait pas intéressant que tous les gens qui ont à dire des choses dessus se rencontrent, quoi? Est-ce que forcément, ça ne limite pas aussi les thérapies, etc., quoi?
Non, attendez, vous mélangez deux choses, pardonnez-moi. Non, la première question, c'est de savoir est-ce que pour prendre une décision thérapeutique, il ne faut pas que les gens se rassemblent. C'est évident que c'est ce qui se passe actuellement, si vous voulez. Ça, c'est depuis que l'oncologie médicale a été créée, il y a des staffs dans les hôpitaux, des réunions, où vous avez autour d'une table le spécialiste de l'organe atteint, l'anatomopathologiste qui porte le diagnostic de cancer, le chirurgien, le radiothérapeute, le chimiothérapeute, enfin, l'entourage médical. Tout ceci existe déjà et ça a été renforcé par le plan cancer actuel qui est ce qu'on appelle des concertations pluridisciplinaires. Donc ceci existe. Par contre, au niveau de la science, alors là, c'est pas possible. Parce que si vous voulez, il y a quelquefois une vision un peu naïve qui est de dire que si tous les chercheurs se mettaient ensemble, on trouverait plus vite le cas du cancer. Certainement pas. Car l'homme n'est pas fait pour avoir tous la même idée. Si tout le monde avait la même idée, si vous voulez, on ne trouverait rien du tout d'ailleurs. C'est de la diversité des idées que naît l'innovation. Bon. Or, nous avons les chercheurs sont l'objet de confrontations permanentes avec les différences. Ils se rassemblent lors des colloques, lors des revues, lorsqu'ils publient leurs résultats dans la revue internationale. Donc là, c'est la différence qui fait au contraire l'innovation, la diversité et l'innovation. Et donc, si vous voulez, et si vous lisez un livre d'un Américain qui s'appelle Thomas Kuhn, qui est un épistémologiste, il vous dira que toutes les grandes découvertes ont été faites par un chercheur ou un tout petit groupe de chercheurs, jamais par un ensemble de chercheurs. Pasteur a découvert a affronté tous les spécialistes de l'époque qui pensaient que la génération spontanée était à la base des maladies éventuellement, alors que, si vous voulez, il était le seul à dire que non. Et petit à petit, il y a eu un effet tache d'huile, c'est-à-dire qu'il y a d'autres chercheurs qui sont venus avec lui dire que c'était les microbes, et ainsi de suite. Puis maintenant, tout le monde sait que personne ne met en doute le fait qu'une maladie infectieuse, c'est lié à des microbes. Bon, nous en sommes là encore aujourd'hui, si vous voulez, à nous dire que le cancer est lié au tabagisme, à l'alcoolisme, et éventuellement à l'alimentation. Ça, c'est la thèse classique, mais il est évident que ça ne cadre pas avec ce que l'on observe aujourd'hui. Le drame, c'est que les pouvoirs publics ne tiennent pas compte des observations et que nos médecins, très souvent, qui soignent les malades, on est dans le guidon, n'ont pas le recul suffisant pour voir ce qui se passe. Et que, si vous voulez, il est évident que ça ne cadre pas avec le paradigme ancien et qu'il y a nécessité de créer ce nouveau paradigme environnementaliste.
Bonsoir, professeur. Une leucémie, elle vient de quoi ? De l'environnement ? Ou alors c'est une question d'alimentation ou au travail ?
Ça dépend à quel âge elle apparaît, d'une part. Les leucémies de l'enfant, qui sont les plus fréquentes, sont essentiellement d'origine virale.
Là, c'est une leucémie d'un adulte, d'une personne de la cinquantaine.
Les leucémies, donc chez l'enfant, sont essentiellement d'origine virale, mais certaines formes peuvent être d'origine chimique, liées notamment au benzène et à d'autres substances chimiques. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, pour ce qui est des leucémies de l'adulte, ça peut être aussi d'origine virale, mais c'est plus souvent d'origine chimique. On retrouve le benzène et d'autres substances chimiques aussi, une pollution qu'on ne connaît pas encore bien. Il y a certaines leucémies qui sont probablement liées à certains pesticides qu'on a pris sans savoir, pesticides organochlorés notamment. Et puis vous avez quelques leucémies qui peuvent être aussi d'origine, les leucémies myélobasiques, ou myélomonocytaires, qui peuvent être chez l'adulte, qui peuvent être d'origine liées au rayonnement, radioactivité, etc. Je vous ai dit tout à l'heure que les lignes haute tension pouvaient intervenir, c'est essentiellement chez l'enfant, le leucémie de l'enfant. On vient de démontrer par exemple que si vous habitez à proximité d'un garage ou d'une station-service, le risque de leucémie de l'enfant est multiplié par 3 également, et on pense que c'est des vapeurs de benzène qui se dégagent du garage ou de la station-service qui vont créer la leucémie, qui s'accumulent dans les lieux d'intérieur, qui vont créer la leucémie chez l'enfant. Donc chez l'adulte, c'est essentiellement, pour une petite partie, les virus. Pour une grande partie, à mon avis, les substances chimiques, et pour une petite partie, les rayonnements. Oui, surtout bonjour. La radioactivité.
Bonjour. Donc moi, je voulais mettre un petit peu l'accent sur l'industrie pharmaceutique, quand même. Donc il y a très, très peu d'argent qui est consacré à la recherche, et beaucoup plus sur, pas la prévention, mais donc sur le traitement. Donc ça leur rapporte énormément. Et donc, il y a assez peu d'argent qui est consacré à cette recherche. Donc, si les pouvoirs publics aussi pouvaient mettre beaucoup d'argent là-dessus, un peu plus, disons, je pense qu'on aurait aussi des soins qui seraient plus adaptés. Je sais que depuis 30 ans, on diffuse quand même des listes de produits toxiques, et ça fait quand même 30 ans qu'on les diffuse, donc on est un peu au courant. Maintenant, il n'y a pas aussi de volonté des pouvoirs publics de passer ça dans les journaux, dans la presse, et puis de mettre de l'argent sur la recherche, quoi. Donc moi je constate quand même depuis 30 ans qu'on est un petit peu à côté de nos baskets.
Alors, il y a plusieurs questions. Là aussi, il faut sérier les problèmes si on veut être efficace dans le discours. Vous avez d'une part une industrie pharmaceutique qui a le monopole des médicaments et qui met toujours des médicaments sur le marché, avec une pression des lobbies de l'industrie pharmaceutique pour mettre de nouveaux médicaments. Quand vous ouvrez le livre où il y a ces médicaments, vous avez 4500 médicaments aujourd'hui sur le marché. Alors qu'on pourrait soigner la plupart des maladies avec quelques centaines de médicaments seulement. Donc manifestement, il y a des médicaments inutiles, ou très peu actifs en tout cas, et qui, de surcroît, créent des maladies. C'est ce qu'on appelle toutes les pathologies iatrogéniques. Donc voilà, là il y a une situation qui est claire. Le vrai problème, c'est que nous retombons dans ce que je disais tout à l'heure, c'est que on met l'homme au service du système économique et que les pouvoirs publics sont dans le système économique et donc ne veulent pas reconnaître que cette pression de l'industrie, quelle qu'elle soit, peut avoir des effets nocifs. C'est le cas de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il est clair que cette pression de l'industrie pharmaceutique met des médicaments inutiles sur le marché et qu'il y a une pathologie induite iatrogénique. Alors, la situation est beaucoup plus grave encore que vous la décrivez, car si vous voulez, au niveau des recherches, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au niveau des recherches, vous avez la chose suivante, premier point, c'est que toutes les grandes innovations qui ont fait la force de l'industrie pharmaceutique proviennent du public. Autrement dit, c'est la recherche publique qui crée une innovation et qui est, si vous voulez, qui est d'une façon ou d'une autre achetée, mais à bas prix par l'industrie pharmaceutique, sous la forme de royalty. Une fois que le chercheur a eu, disons, l'intelligence de prendre un brevet, bon, l'industrie va acheter le brevet et va développer le médicament. Alors, donc ça, c'est donc l'industrie elle-même fait très très peu de recherche. C'est l'industrie publique qui en fait. Insuffisamment, bien sûr. Mais en fait, un certain nombre, en tout cas, l'industrie pharmaceutique n'en fait pratiquement pas. Ce qui est beaucoup plus grave aujourd'hui, c'est que vous savez qu'on a un plan cancer, qui est d'ailleurs un véritable échec. Et que l'argent public de ce plan, dans le cadre des cancéropôles qui ont été créés ou qui sont en voie de création, est mis à la disposition de l'industrie pharmaceutique. Autrement dit, c'est l'argent public aujourd'hui, l'argent des contribuables de nous, qui sert aujourd'hui à développer des médicaments au niveau de l'industrie pharmaceutique. Donc nous sommes deux fois, nous payons deux fois. Nous payons une première fois nous payons les recherches de l'industrie pharmaceutique, qui elle-même nous fait payer une deuxième fois lorsque nous achetons les médicaments. Voilà le système dans lequel nous sommes, ce qui est absolument scandaleux. Donc vous voyez, il faut bien, bien cerner les problèmes en disant que c'est un véritable scandale dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et bien sûr, tout ceci se fait à la risée, à notre risée, par les pouvoirs publics qui ne veulent voir que, qui ne veulent absolument pas voir le fait que nos maladies ne proviennent pas de nous-mêmes, mais de l'environnement, de la société. Il y a un livre aussi sur le cancer qui a été écrit par une collègue dont j'ai oublié le nom tout de suite, mais je vais retrouver cela, La Société cancérigène, qui est un livre remarquable. C'est la société qui crée les maladies. Donc elle va, à l'époque, j'étais moi, dans les autres, on a publié chacun nos bouquins en même moment en 2002. Moi j'étais dans le centre des maladies, elle avait sorti sur le cancer, elle avait bien raison. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question.
Bonsoir, je voulais vous poser une question sur savoir qu'est-ce que vous pensez de l'agriculture biologique, si ça peut être une alternative à tous ces problèmes. Et une deuxième question, c'est que pensez-vous de la vaccination à outrance?
Oui, ces deux questions, merci qu'on me pose, je suis habitué à répondre. Bon, il est évident que parmi les mesures de protection, il faut manger bio, bon, mais il y a un vrai problème avec le bio. Il est trop peu développé en France et je crois aussi que la filière ne marche pas bien. Il y a un marché du bio, manifestement. Alors vous me direz, ça concerne les porte-monnaies qui sont un peu plus bombées que d'autres. C'est vrai, cela. Mais au moins, même la demande, notre pays n'est pas capable d'y répondre. Pour deux raisons. D'une part, c'est certainement par le fait que il n'y a pas suffisamment de subventions, donc de prise en considération du bio, par les pouvoirs publics, ça c'est vrai. Bon. Mais aussi par le fait que les gens du bio ne s'organisent pas suffisamment. Il y a des ruptures au niveau de la filière. Et même les gens qui sont pour le bio disent « le bio, ça ne va pas bien du tout ». On est obligé d'importer des aliments bio maintenant des pays de l'Est, vous vous rendez compte. Voilà. Alors, s'il y a des jeunes dans cette salle et vous êtes tous jeunes ou presque, bon, il faut bien sûr développer le bio. En tout cas, dire aux plus jeunes de développer le bio, se battre, car c'est l'avenir. Il y a aussi, au-delà du bio, l'agriculture naturelle, ce qu'on appelle l'agriculture naturelle, qui est une forme d'agriculture qui va même au-delà du bio, qui va reprendre pratiquement tous les éléments du cahier des charges du bio, mais qui va en plus y ajouter une protection de la nature majeure, tout azimut, aussi bien au niveau de l'animal que de la faune que de la flore. Et donc, si vous voulez, avec les procédés qui existent, ça a été découvert par un japonais. Je viens de faire la préface d'un livre qui s'intitule justement Traité d'agriculture naturelle. C'est certainement pour nous voir. Là encore, il faut faire appel aux jeunes agriculteurs. Il faut que les jeunes comprennent. Malheureusement, ils sont cadenassés par certains syndicats, dont la FNSEA, qui ne comprend rien du tout, qui n'est dans le système économique, c'est-à-dire qui ne voit que, si vous voulez, l'intérêt financier à court terme. Mais je vais vous dire, ça va être la parabole de l'arroseur arrosé. Car ce qui existe aujourd'hui, c'est que plus vous faites de l'agriculture intensive, plus vous mettez les pesticides dans le sol, plus vous détruisez la vie du sol, moins il y a d'humus qui se forme, parce que pour faire de l'humus, il faut des insectes, des vers de terre, des champignons et des bactéries. Vous détruisez ou modifiez tout ça, et un jour ou l'autre, les gens de l'agriculture intensive finiront par avoir des terres qui deviendront stériles. Je leur souhaite, de façon à ce qu'ils comprennent, que la nature, quand on la viole, elle se défend. Et si vous voulez, notre seul espoir aujourd'hui, c'est que cette nature va se défendre le plus tôt possible. Déjà, elle va reprendre ses droits. Déjà, avec le pétrole, le prix du pétrole, tout simplement parce qu'on a épuisé plus des 2/3 des ressources mondiales en pétrole, ben le prix augmente. Alors on nous dit que ça baisse là, mais c'est une baisse conjoncturelle. C'est toujours parce que le marché fixe un prix artificiel au pétrole. Mais le jour où il n'y aura plus de pétrole, croyez-moi, c'est comme le timbre très rare ou comme la dorée très rare, comme l'objet d'art très rare, les gens se l'achèteront, si vous voulez, à des prix d'or. Eh bien, le jour où les gens auront fait du bio, auront compris qu'il faut préserver les sols, si vous voulez, auront fait de l'agriculture naturelle, n'auront pas mis d'engrais ni de pesticides, ils ont peut-être fait des rendements un tout petit peu moins forts, mais à l'époque, leur terre s'achètera à prix d'or. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Martinique. J'évalue à 10% déjà les terres devenues stériles ou très difficilement fécondes en tout cas. J'aurai des anecdotes à vous décrire. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il va y avoir la fin de l'arroseur arrosé. Et que nous sommes dans un système, aujourd'hui, malheureusement, où je dis que c'est le syndrome du pollueur payé, parce qu'on paye les pollueurs, et du syndrome également du pollué-payeur. C'est nous, tout simplement, parce que nous avons la facture. Je vous ai parlé tout à l'heure de la facture financière, mais il y a aussi la facture sanitaire que nous payons avec les maladies qui nous sont données par la société. Voilà.
Et les OGM
Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de virus qui sont quelquefois cause de certains cancers comme les leucémies. C'est également le cas pour les cancers du col de l'utérus. Qu'est-ce que vous pensez du vaccin qui vient de sortir pour les adolescents?
C'est une très bonne question. Je suis radicalement et formellement contre. Pour 5 raisons. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous les dire toutes. Premièrement, c'est un cancer qui est très peu fréquent chez nous. Par contre, je serais pour dans les pays en Afrique ailleurs où le cancer du col de l'utérus est très fréquent et où là-bas c'est le multipartenariat, excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Bon, et les femmes, c'est elles qui chopent le virus de droite, de gauche, du centre, j'en sais rien. Bon. Ici, tout de même, il y a peut-être encore un peu de multipartenariat par derrière les fagots, mais tout de même, il y a des protections, Et de toute façon, au niveau au terme de santé publique du cancer du col de l'utérus, celui-ci est radicalement en chute libre au niveau de l'incidence. Depuis d'ailleurs 30 ou 40 ans. Depuis qu'on a mis en place un dépistage, car nous avons un dépistage qui est efficace. Ça, c'est un premier problème de santé publique. On meurt peu de cancer du col de l'utérus aujourd'hui parce qu'on a un dépistage efficace. Le deuxième point, c'est que ce vaccin ne protège pas à 100%. Il protège à 80%. Ça veut dire que la fillette de 14 ans qui pense qu'en étant vaccinée, elle va pouvoir se protéger et donc avoir des relations un petit peu à droite et à gauche, au centre, etc. Bon, elle ne sera pas protégée contre le virus du papillomavirus. 2, elle risque d'attraper une autre maladie par contamination sexuelle. Hépatite B, C, HIV, sida, etc. Bon. Donc, si vous voulez, parce que à partir du moment où on est vacciné, dans l'idée, dans sa tête, eh ben, on est protégé. Bon. Donc, c'est la deuxième raison. Troisième raison, à 14 ans, sincèrement, demander à des millions de fillettes de se faire vacciner pour éviter quelques dizaines de morts par an au niveau de notre pays, et d'ailleurs des morts qui de toute façon seront inévitables d'une façon ou d'une autre, parce qu'en général ce sont des gens qui ont fait un petit peu la politique de l'autruche, trop attendue, et qu'on voit dans le cabinet de consultation avec des cancers du col de l'utérus trop évolués. C'est une personne qui a vu que ses règles n'étaient plus régulières et qui n'a pas consulté, ou alors quelquefois qui a eu un gynécologue qui n'a rien vu, ça existe aussi. Hein, bon. Ou une femme qui après la ménopause a eu des saignements et puis c'est normal d'avoir des saignements après la ménopause, je ne consulte pas. Alors, tout cela, si vous voulez, dire à ces fillettes, qu'on va des millions de fillettes, psychologiquement c'est pas très bon tout de même, parce que en plus ça va leur dire maintenant je peux y aller, dans tous les cas ça va y aller. Vous savez, je vais vous dire une chose, je veux pas paraître réac, rétro, ouais. Dans ma famille, tous les jours, ils me le disent. Enfin bon, ma fille, ma femme le disait, elle me dit moi maintenant, ma fille me dit encore. Bon. Donc, si vous... la seule chose tout de même, c'est que, vous savez, cette vieille bonne morale, hein, la morale, le sens du bien et du mal qui est inné en nous, de ce qui est fait, de ce qu'on peut faire, et puis de ce qui est tabou, il faut que ça reste un jour ou l'autre. Alors, il y a peut-être des petits passe-droits qu'on peut se donner un petit peu de temps en temps, mais globalement, il faut tout de même rester un petit peu dans ça. Or, si vous voulez, là, c'est vraiment aller dans un sens, si vous voulez, où on détruit tout. On fait perdre, en plus, on n'est plus dans ces valeurs, tout de même minimales, de dire, bon, ben d'accord, avant le mariage, d'accord, mais on se protège et puis on va tout de même essayer. Si c'est sérieux, on ira, mais si c'est pas sérieux, bon, on réfléchit deux ou trois fois avant d'y aller. Et puis, le dernier point, l'un des points aussi, c'est. Là encore, qu'est-ce que ça va coûter à la Sécu à vacciner des milliers, des millions de fillettes pour engraisser l'industrie pharmaceutique? En plus, c'est une firme anglaise, ce n'est pas une firme française en plus. Donc, on va encore accuser le déficit de la sécurité sociale. Bon, je suis dans un pays ici où on était un peu cocorico tout de même, hein, depuis Mitterrand. Il y a le village, il y a le bleu-blanc-rouge, tout ça, c'est pour ça que je vous dis ça. Bon, alors, si vous voulez, sur les affiches, je vous rappelle. La France silencieuse, la force du silence, la force tranquille, bon, d'accord. Et ben ce soir, il faut qu'on soit une force tranquille, mais je dirais une force active, je rajouterais moins, mais tranquillement active ou active tranquillement, comme vous voulez, mais il faut mettre le mot actif, parce que là, c'est plus comme du temps de Mitterrand où tout allait bien, apparemment, dans le meilleur des mondes, tout irait mieux avec la gauche au pouvoir. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas contre la gauche, ou une certaine droite au pouvoir. En tout cas, je suis pour les gens qui ont compris ce qui nous arrive aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a l'urgence. C'est pour ça que je pense qu'il faut une France active.
Il y a encore une question là.
Bonsoir. Dans le pronostic d'un cancer, est-ce que...
Et les OGM aussi, enfin, allez-y.
Oui. Ah oui. Et donc, dans le pronostic d'un cancer, est-ce que le facteur psychologique peut avoir une réelle incidence ou en fait, c'est une hérésie?
Non, c'est pas une hérésie, c'est une incidence non prouvée, mais une probabilité... C'est le stress chronique peut, d'une part, entraîner une nuisance, le tabagisme, ou une addiction générale. C'est le genre les gens stressés qui compensent leur stress par une addiction. Alors, il ne faut pas croire que c'est les anxiolytiques, etc., tous ces médicaments du système nerveux qui vont régler le problème. Nous sommes d'ailleurs le champion d'Europe pour la consommation des psychotropes. Bon. Le véritable traitement à ce niveau-là, c'est la convivialité. Pour ce qui est du médecin, de rétablir le discours, rencontre d'une âme et d'une conscience, discuter, avoir le temps de voir ce malade, et puis la famille, la convivialité. Alors vous, ici, vous l'avez encore, cette notion familiale. Vous savez, je ne sais pas, j'imagine qu'encore vous revoyez le dimanche. Vous faites encore un repas ensemble, réunissant la famille ou pas? Oui, oui ou non? Dites-moi. Oui, ça se fait encore dans le pays. Bon. Non? Ça se fait plus? Bon. Pas tous les dimanches, mais ça se fait encore souvent. Bon. Bon. Ah, les belles-mères sont toujours emmerdantes, ça n'a pas changé, ça je suis d'accord là-dessus. Mais si vous voulez, la famille. La famille d'ailleurs où il y avait un règlement de compte qui se faisait. Et puis je vous ai dit d'ailleurs convivialité à tous les niveaux tout à l'heure. Je vous ai parlé de rétablir les dispensaires. Mais moi, monsieur le maire, je m'adresse à vous là. Il faut rétablir le garde champêtre. Vous en avez un, bravo. Un garde champêtre, le gars qui va régler tous les problèmes de voisinage, sans passer par la juriste, le juge, etc. Bon, la convivialité. Le gars qui nous emmerde avec son arbre, qui l'a pas coupé à temps, etc. Bon, ça relève du juge. Bon, il y a toujours le mauvais coucheur, ça existait partout. Bon. Donc, diminuer le stress. Alors, là, vous avez une raison pour le cancer aussi, c'est que le stress chronique, répété, peut favoriser la stimulation des cellules mutées. Ça donc ne peut pas induire un cancer, mais ça peut favoriser son émergence. Ça n'est pas démontré, mais c'est possible. Voilà. Il y avait une dernière question aussi sur les OGM.
Oui, ben, je voulais savoir ce que vous pensiez des OGM, puisque c'est une question...
Pesticides, OGM, même combat. Vous avez deux types d'OGM. Les OGM qui synthétisent des pesticides, et à ce moment-là, si vous voulez, ça va créer des résistances au niveau des plantes ou des animaux, ce qui fait que vous allez être obligé d'utiliser, après plusieurs années, par épandage externe, des pesticides, en plus, augmenter la quantité, ce qui fait qu'il n'y a aucun gain de l'OGM par rapport à une plante d'OGM. Et puis enfin, pour les trois quarts d'autres OGM qui ne synthétisent pas des pesticides, mais qui ont des activités diverses, qui résistent contre la chaleur ou autre, à ce moment-là, vous allez avoir une concentration des pesticides qui vont se faire de façon plus importante dans l'OGM par rapport à la plante d'OGM, ce qui fait que vous allez retrouver les pesticides dans toute la chaîne alimentaire et en fin de course dans votre assiette. Et donc, il y a des problèmes sanitaires qui se posent. Plus d'autres problèmes écologiques, environnementaux donc, et sanitaires autres. Voilà. Donc, si vous voulez, il est clair que aujourd'hui, la loi qui vient d'être votée par nos chers députés est une véritable loi scélérate concernant les OGM, et que c'est mal parti pour le Grenelle, puisque ça faisait soi-disant partie du Grenelle. On nous dit qu'on va faire pousser dans des champs, qu'on va pouvoir faire pousser des champs en champ libre des OGM à côté des plantes non OGM. Bon, ben ça, c'est de la fiction de politique. Biologiquement, c'est impossible. Et que là, nous n'avons pas... que cette loi se fait contre le principe de précaution. Il y a, bien sûr, des intérêts économiques par derrière. Et je rejoins, très franchement, le combat de José Bové, même s'il peut apparaître, si vous voulez, quelque peu difficile par moment. J'ai d'ailleurs témoigné au procès sur les volontaires, les faucheurs volontaires. Il est clair que nous sommes ici, pour répondre à votre question, ce sera peut-être le mot de la fin, que nous sommes dans un système politique que je juge totalitaire aujourd'hui, où tout le monde envoie de devenir totalitaire. Nous sommes dans un système de la pensée unique et que, si vous voulez, il faut de la désobéissance civile, c'est-à-dire la philosophe Hannah Arendt le dit, c'est ce qu'elle disait avant, si vous voulez, lors de l'ascension, bien sûr, la comparaison est un peu difficile et pas tout à fait exacte, mais l'ascension d'Hitler a été favorisée par des boutons de panurge, des gens qui disaient que tout allait bien dans l'air des hommes et qu'il fallait suivre ce que disait le Führer. Bon. Eh bien, ici, nous n'avons peut-être pas encore un Führer, mais nous avons en tout cas un système totalitaire dans lequel la démocratie a du mal à s'exprimer. Et ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il y a une manipulation de l'opinion publique et une tromperie des médias en particulier, ce qui fait que c'est la même pensée. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Si ça va mal, c'est parce que vous ne travaillez pas assez. Si vous êtes malade, c'est de votre faute. S'il n'y a pas assez de... Voilà. Donc, c'est toujours de toute façon, la balle est dans notre camp. Alors, il y a quelquefois des vérités aussi. C'est vrai que, on n'est pas parfait. Ça, c'est vrai aussi. Il faut savoir reconnaître nos défauts. Mais là, c'est exagéré aujourd'hui. Et il est clair qu'il faut de la désobéissance civile. Et c'est là, sur cela, que je rejoins José Bové. Il faut de la dissidence. Car c'est ce qui s'est passé dans tous les régimes totalitaires, la dissidence. Certains nombre d'intellectuels, notamment, ou de gens qui ont compris, eh bien, ils font dissidence. Ils refusent le système actuel. Ils refusent le système actuel. Donc désobéissance civile, dissidence, il faut l'avoir pour éviter quoi? Pour éviter le troisième degré qui est la révolution. Et bien voilà, Edwige, voilà encore un autre système qui est, si vous voulez, tout simplement, là, une atteinte à la liberté d'opinion et à la liberté de... c'est scandaleux. Nous sommes dans une espèce de totalitarisme actuellement. Ça va être le sujet de mon prochain bouquin qui s'intitulera « Au nom du serment d'Hippocrate » et qui aura tout de même en dessous, je le crois, il y a protéger d'urgence l'enfance, nos enfants. Protéger d'urgence, c'est, si vous voulez, la conclusion en tant que médecin que je porte aujourd'hui. Bien sûr, nous sommes passés par le système économique. Protéger les enfants. Et surtout, 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 c'est cela qu'il faut faire. D'où cette campagne que je pense pouvoir faire en espérant que votre ville, et monsieur le maire est là et a tenu bon jusqu'au bout, cela est un signe qui va dans le bon sens. J'espère que votre ville sera un relais efficace et que tous d'entre vous qui êtes là ce soir seront le relais de cette campagne. Voilà, un grand merci.
Professeur Bellepomme, merci professeur Bellepomme. Encore une dernière question, s'il vous plaît.
Ah bah alors, attendez, on n'a pas fini bien le monsieur là-bas.
Au niveau de la pollution environnementale, oui. Quel genre de programme ou quel genre d'argument peut-on proposer au pouvoir public pour faire entendre raison?
Si vous voulez, je vais les énumérer très vite. C'est par exemple arrêter la construction d'incinérateurs parce qu'il y a des alternatives à l'incinération. Qui est le tri sélectif, la collecte sélective, le tri sélectif, le recyclage, la méthanisation, le compostage, etc., etc., et l'enfouissement sécurisé. Voilà un thème. Deuxièmement, il est évident qu'il faut faire que les produits mis sur le marché polluent moins. Là, vous savez qu'il y a eu le règlement REACH. Alors, la France est la lanterne rouge de l'Europe pour l'application du programme REACH. Donc déjà veiller également à ce que les directives européennes passent dans le droit français à temps et en heure et non pas 3-4 ans en retard. Déjà veiller à faire au minimum ce que l'Europe fait. Et aller quelquefois au-delà, l'incinération, développer par exemple au niveau sanitaire ce qu'on appelle les ambulances vertes, c'est-à-dire les mesurer dans les endroits où il y a des malades de la pollution, savoir si c'est un champ électromagnétique pulsé qui est en cause ou si c'est un produit chimique qui est en cause. Donc vous voyez, il y a toute une foule de recommandations et de politiques à faire. Ces recommandations, d'ailleurs, je les énumère tout à fait de façon précise dans mon dernier bouquin, avant qu'il ne soit trop tard. Donc, madame, la réponse est dedans.
Bien. Je m'excuse, monsieur le professeur, je voulais vous poser cette question-là qui me tient à cœur. Pour que vous compreniez ma question, je me présente, je suis le président des usagers des services de santé du Haut-Nivernais.
Vous êtes le président de quoi?
De l'association des usagers des services de santé du Haut-Nivernais. Et il y a un cancer auquel je suis inquiet, qu'on n'a pas entendu parler ce soir, c'est le désert médical. Je voudrais savoir... Non, mais j'étais absent. Je m'excuse, je suis arrivé en retard.
J'ai dit désert sanitaire.
Attendez, oui, mais le désert médical, et je voudrais avoir votre sentiment par rapport à cela, et éventuellement, si vous aviez des solutions à nous apporter pour travailler pour le meilleur, d'avoir moins de désert médical sur notre territoire. Merci. Excusez-moi de me...
C'est une excellente situation. Alors, question, plutôt que situation... Je pense qu'il y a plusieurs armes à votre arc, si j'ose dire. Plusieurs flèches à votre arc. La première, c'est d'abord de faire ce que vous faites certainement, un combat de terrain. Bon. Et donc ce combat de terrain, c'est de diffuser le message environnementaliste. Santé, environnement. Il y a et de répondre à cette campagne que nous allons faire. Il y a une coordination nationale médicale santé environnement, la CNMSE, qui vient de se créer, qui regroupe plusieurs milliers de médecins. Il est évident que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une prise de conscience médicale que la santé et l'environnement, ça va complètement modifier les pratiques médicales. Bon. Car le véritable problème, c'est de mobiliser les jeunes à venir s'installer dans ces régions. La région est magnifique, elle est belle. Il faut, pour mobiliser les jeunes, les mobiliser avec un nouveau message, avec un nouveau paradigme. Si vous dites à ces jeunes, ben voilà, ici, il y a un certain nombre de maladies bactériennes. Ce que nous désirions avoir, c'est une médecine de prévention, mais aussi qui soit liée aux problèmes de santé et d'environnement. S'il y a une construction de message qui se fait avec un certain nombre de médecins, d'ici convaincus de ce message-là, vous pouvez avoir des jeunes qui arrivent. Il faut mettre les médecins dans le coup. C'est aussi les médecins d'ici dans le coup. Et puis, mettre aussi les gens du Conseil de l'Ordre. Voilà. Et puis se battre pour les problèmes, pour avoir une politique de santé nouvelle. Il est évident que se battre contre la désertification médicale, c'est stupide d'avoir retiré les maternités, mais vous avez deux moyens pour pallier à cela. Un, vous battre pour ce qui est la réhabilitation des dispensaires. Eh bien, des gardes sont en fait maintenant, donc c'est très bien. Réhabilitation des dispensaires. Deux, faire venir aussi des cliniques privées. Puisque si le public est déserté, il faut que la clinique privée prenne le relais, si c'est possible. Donc, si vous voulez, je sais bien que c'est remettre dans le privé, que ce n'est pas très marrant, mais il y a des cliniques privées qui font très bien leur boulot et qui sont capables d'accoucher une femme à n'importe quelle heure de la nuit à proximité de leur domicile. Donc, il ne faut pas forcément cracher sur le privé là à partir du moment où il y a une convention qui se passe avec les élus locaux et que une clinique bien sûr conventionnée et qu'elle peut faire un travail de terrain remarquable. Donc c'est ça un peu les pistes aujourd'hui, les dispensaires, les cliniques privées, rassembler le camp médical pour faire venir les jeunes.
Voilà.
Il y a du boulot, hein.
On va peut-être s'arrêter là. Merci donc monsieur le professeur Belpomme.
Est-ce que je vous ai attristé beaucoup? Ça a été bon.
Voilà, en tout cas, on va ne partez pas, on va terminer en chanson pour montrer qu'on est encore vivant et que.
Alors attendez, je me sens tellement bien là. Peut-être qu'un jour vous me réinviterez, peut-être pas ici, mais dans une ville voisine. Comme ça diffusera les choses. Donc faut y aller là, hein, dans un autre café, dans un autre bistrot, pour. Ben peut-être à Nevers. Ben invitez-moi à Nevers. Oui, mais enfin, dans un coin où il y a un désert médical, c'est là, il faut que j'aille aussi.